Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Place aux jeunes ce soir, la jeunesse d'aujourd'hui. Que pense-t-elle? Comment vit-elle dans ce monde frappé par le Covid? Quels sont ses idéaux et ses idées hautes? On en parle souvent de la jeunesse, mais au lieu d'en parler, on ferait peut-être mieux de l'écouter, non? Et puis surtout de la lire. Eh bien, je vous propose ce soir de donner la parole aux jeunes avec trois jeunes écrivains qui publient leurs premiers livres, qui m'ont beaucoup impressionné, tant par la qualité et l'originalité de leurs plumes que par la finesse de leurs réflexions. Vous allez les découvrir. Je pense que vous en entendrez beaucoup parler à l'avenir. Shan Haddad, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 24 ans.
Oui.
Et après une cagne à Paris, une licence de lettres, vous avez intégré le master de création littéraire de la ville du Havre. Vous publiez votre premier roman, Tony, tout court, c'est aux éditions POL. Juste en face de vous, Maxime Miedo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 22 ans, vous.
Tout juste.
Tout juste.
Tout juste.
Étudiant en histoire et en sciences politiques à Nantes.
C'est ça.
Chroniqueur régulier à la radio, c'est-à-dire que vous êtes déjà un peu aguerri aux médias.
J'essaye de m'y faire tout doucement.
C'est sur RMC.
Exactement.
Génération fracassée, c'est le titre de votre premier livre publié aux éditions Fayard. À vos côtés, Jamel Chérigui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 35 ans.
Exactement.
Vous tenez une épicerie, Le Parvis, à Roubaix, et vous publiez votre premier roman, La Sainte Touche, c'est aux éditions Lattès. Bienvenue à tous les trois, je suis absolument ravi de vous accueillir, de vous recevoir. On va parler de vos livres, de vos approches, de la littérature et de la vie, qui sont très différentes. Hein. Mais j'ai eu envie de vous proposer de dialoguer avec un sociologue, historien, philosophe qui s'est beaucoup intéressé à la jeunesse, y compris dans son nouvel ouvrage. Alors, il n'est pas de votre génération, c'est vrai. Il n'a pas l'habitude de la langue de bois et il est à l'écoute. Bonsoir Jean-Pierre Le Goff.
Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir ce soir avec justement ceux dont vous parlez en réalité souvent dans vos ouvrages. La société malade, c'est le titre de votre nouvel essai dans lequel vous revenez sur la pandémie à travers une réflexion sur les fractures, sur les erreurs que cette crise sanitaire a mises à jour. Avant d'évoquer vos livres dans le détail respectif, et puisque nous sommes là pour célébrer la lecture, les livres, la littérature, j'aimerais savoir ce que représentent les livres et la lecture pour vous. Il y a cette idée reçue hein, que les jeunes ne lisent plus. J'ai comme le sentiment que vous allez faire mentir le cliché. Shan Haddad, qu'est-ce que c'est les livres et la lecture pour une jeune fille de 24 ans comme vous?
La lecture, c'est quelque chose qui permet de redonner le temps au temps, je pense. Qui permet de trouver une intimité dans une temporalité qui est la nôtre, que l'on choisit, de redonner une place à l'imaginaire que, personnellement, je ne trouve pas dans tout ce qui est très moderne et à la mode en ce moment, comme par exemple les réseaux. J'aime bien temporiser, équilibrer avec un imaginaire qui m'est propre, que j'invente.
Retrouver le sens du temps.
Oui.
Maxime Miedo, dans votre livre, à un moment, vous le dites, hein, il y a une idée reçue qui est que les jeunes ne lisent pas, ne lisent plus, et il y a deux pages qui sont un véritable éloge de la lecture. Comment expliquez-vous que cette idée tienne tant de place et vous, par exemple, que lisez-vous et quand lisez-vous?
Alors, j'aurais adoré dire comme Shan Haddad que j'avais fait Kain et que je m'en sortais en lisant Chateaubriand à 6 ans, mais j'ai commencé, je pense, par Picsou Magazine et je me suis sauvé après en tombant dans des pages, en lisant des extraits, en écoutant certaines personnes les réciter. Et je trouve que c'est un véritable sauvetage, la littérature. C'est-à-dire que ça vous sauve de là où vous êtes. C'est un véritable refuge. C'est quand on entre dans une librairie, au milieu de tous ces livres, aussi différents soient-ils, on arrive à voyager dans le temps, on s'embarque avec des personnages, on leur tient la main. Et oui, évidemment, dans le livre, je consacre un peu de pages à ça, parce que je suis assez toujours stupéfait d'entendre les gens dire « les jeunes ne lisent plus ». Non, ils ne lisent plus la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est formidable quand on rentre dans une librairie, évidemment, à côté d'Albert Camus, ou alors juste en face, on peut trouver des mangas, on peut trouver des BD. J'ai vu, notamment il n'y a pas longtemps, que George Orwell avait été fait en BD, en comics.
Il y a deux versions, là, actuellement, de 1984, de George Orwell, qui sont excellentes toutes les deux.
Exactement, et c'est en pop art, c'est une version beaucoup plus moderne. Et ça n'enlève rien à l'œuvre. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est qu'il y a tous les âges.
Pardonnez-moi, mais revenons là-dessus. Ça vous permettrait, par exemple, si les grands classiques étaient adaptés, là en l'occurrence, c'est des grands illustrateurs qui l'ont fait, les grands classiques adaptés en bande dessinée, c'est une bonne façon d'intéresser les jeunes encore plus à la lecture ?
Je ne sais pas si c'est une bonne façon, mais en tout cas, c'est une approche différente qui est passionnante. Entre le ressenti que peuvent avoir un enchaînement de lignes et quelques images, ça peut provoquer un frisson différent et je trouve ça tout aussi passionnant, sincèrement.
Jamel Chérigui, alors vous êtes un tout petit peu plus âgé, mais enfin 35 ans, on peut tout de même estimer que vous ne faites pas partie des vieux, vous faites partie des jeunes, ne serait-ce que des jeunes écrivains. On a entendu les jeunes étudiants, en l'occurrence, puisque Shan et Maxime viennent pour l'une de terminer ses études et l'autre les continue. Vous c'est l'école et vous, les études et vous, ça n'a pas été vraiment le grand amour. Ça n'empêche pas que vous lisiez. Quand lisez-vous? Comment avez-vous découvert la lecture?
C'est avec l'ouverture du magasin, en fait. L'avantage quand on est épicier, c'est que ça laisse beaucoup de temps libre. Il n'y a pas forcément toujours beaucoup de clients. Donc, ça laisse du temps devant soi. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé, le plus efficace du moins pour m'échapper, pour m'évader, c'est la littérature. Parce que vous savez, être épicier, c'est long. On fait des longues heures. Et le mot n'était pas encore d'actualité, mais c'était une sorte de confinement. J'ai vécu un confinement avant l'heure. On ouvre le magasin à 11h, on le ferme à 23h, et entre-temps, il faut s'occuper. Et pour moi, le plus efficace, c'était la littérature.
Mais alors, comment l'avez-vous trouvé? Comment l'avez-vous découvert? Pourquoi avez-vous choisi la littérature? Shanada disait tout à l'heure, il y a les réseaux. Est-ce que c'est le même sens du temps? Comment c'est arrivé chez vous, la lecture?
J'ai essayé d'autres choses. J'ai regardé des vidéos sur mon téléphone. J'ai essayé de passer le temps autrement et c'était le moyen le plus efficace, je vous dis, pour moi, de m'évader. Il suffisait que j'ouvre un livre, je ne sais pas, de Kerouac par exemple, et j'étais plus dans mon épicerie. Ouais. J'étais au volant d'une bagnole américaine entre Denver et Chicago, à côté de Neil Cassidy, et c'était magique. C'était magique, c'est le plus efficace pour moi.
Jean-Pierre Le Goff, première réaction, quand vous entendez comme ça de jeunes écrivains, romanciers ou essayistes faire l'éloge des livres et de la lecture, vous, le sociologue, est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que ça change peut-être le regard que vous pouviez avoir sur les jeunes et la lecture?
Un peu, oui. Moi, ça fait plaisir, d'abord. Enfin, c'est quand même ça qu'il faut dire au début, avant toute chose. Cela dit, là, vous avez évoqué une chose qui me fera beaucoup, c'est par rapport à l'image. Je pense que vous l'avez très bien dit, mais je pense que la littérature intervient aussi dans un rapport à soi-même et nourrit un rapport à soi-même. D'une certaine façon. Et je pense que l'image peut être très intéressante. Les BD, je n'ai rien contre, si vous voulez, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que vous n'êtes pas collé à une image. C'est-à-dire, quand vous lisez, par exemple, 1984, par exemple, pour prendre ça, 1984, c'est votre propre... Vous faites votre l'univers de 84, et vous avez une représentation qui va avec. Moi, je sais que, par exemple, des adaptations de livres au cinéma ou à la télévision, ça peut être bien, je pense par exemple au Feu Follet, mais ça devient une œuvre cinématographique. Oui. Ça devient autre chose, par exemple. Ou même 84, par exemple, pour moi, c'est très décevant, les films.
Le film qui avait été tiré dans les années 80, oui.
Voilà. Et donc, si vous voulez, je pense que c'est ce... Pour moi, la littérature, mais je dirais aussi la philosophie d'une autre façon, nourrit ce rapport à soi-même. Et c'est ça qui façonne, d'une certaine façon, ce qu'on appelle une colonne vertébrale. On dit qu'il n'y en a plus, etc. Mais je pense que la littérature... J'y rajouterai l'histoire aussi. C'est-à-dire qu'en fait... Ça permet à la fois d'aller dans un autre monde, mais on se réinsère, j'allais dire, dans une filiation. D'une certaine façon, on se réinsère dans un monde et on est, à un moment donné, dans ce monde-là. Moi, c'est ça. C'est pour ça que je trouve formidable que la littérature, alors qu'on dit c'est terminé, je vous signale qu'au passage, et je m'arrête là, c'est que les hommes politiques, par exemple, les hommes d'action, étaient nourris de littérature.
Il faut bien d'utiliser l'imparfait quand même.
Oui, c'est nécessaire.
T'es nourri de...
Alors, puisque justement, c'est une colonne vertébrale, la littérature et la lecture, puisque ça nous permet ce rapport à l'intimité, je vous propose de les écouter. Pour commencer, Jean-Pierre Le Goff, Shan Haddad, Maxime Yedo et Jamel Chérigui. Je serais très intéressé de savoir ce que vous avez pensé de ces livres, mais on va d'abord leur donner la parole. Et on va commencer avec vous, Maxime Yedo, parce qu'il faut dire que vous n'y allez pas de main morte. Je vous parle d'un temps que les plus de 20 ans ne veulent pas connaître. Voilà ce que vous écrivez dans Génération fracassée, votre premier livre qui paraît aujourd'hui aux éditions Fayard. Alors, il y a de la colère dans ce livre, mais aussi, vous le verrez, beaucoup d'informations, de descriptions de ce que vivent les jeunes étudiants autour de vous, Maxime. Fac fermée, cours à distance qui oblige à passer, écrivez-vous, encore plus de temps, rivé à l'écran, la fin des petits boulots qui permettait d'arrondir les fins de mois, mais aussi la fin des sorties, de ce qui fait le sel de la vie quand on a 20 ans. Aimer, écrivez-vous, être libre, vivre, apprendre. Colère contre ceux qui préfèrent discréditer la jeunesse plutôt que de l'écouter, mais aussi plaidoyer pour la liberté, un mot dont vous questionnez le sens. Parmi les 18-25 ans, vous le savez peut-être, vous qui nous regardez ce soir, 3 jeunes sur 4 déclare avoir ressenti ces derniers mois de l'anxiété ou de la dépression, contre 30% après 40 ans et même seulement 15% après 65 ans. C'est ce que nous apprend un récent sondage. Est-ce que vous-même, Maxime Yedo, vous avez ressenti anxiété ou dépression avant d'écrire ce livre ?
J'ai pas ressenti anxiété et dépression, j'ai ressenti inquiétude. Heureusement qu'il y avait la littérature, il y avait du travail, il y avait l'écriture. Mais là où j'ai vu en quelque sorte le plus les dépressions, les idées noires ronger les esprits, ça a été évidemment d'abord chez mes amis. Et puis comme vous l'avez très justement rappelé, les quelques interventions à la radio, ça a amené vers moi des témoignages étudiants touchants. Et je me suis dit, je ne peux pas ne pas écrire un livre, je ne peux pas essayer avec la petite tribune médiatique que j'ai d'essayer d'expliquer un peu la rumeur du monde. Parce que souvent dans les articles, dans les reportages, etc., on avait des noms parfois anonymisés parce qu'ils avaient peur de la réaction de certains profs. On avait des articles où on cachait les visages parce que parfois certains avaient peur de parler. Et donc je me suis dit, si avec un livre on peut expliquer longuement ce qui se passe dans les facultés, ce qui se passe pendant les examens, ce que les jeunes ou ce que certains, ce que j'ai pu ressentir quand je n'avais pas la liberté d'aller retrouver quelques amis en cachette, d'aller refaire le monde avec une bouteille de vin sur un banc, je me dis, je pense qu'il faut qu'on en parle parce que je vois pas pourquoi d'autres le feraient à ma place, surtout quand ils ont plus de, ou quand ils sont 68 ans ou qu'ils ont plus l'âge de le faire.
Ah bah ça y est, on commence tout de suite avec les 68 ans. On va commencer alors, si vous voulez bien, par la principale objection, qui est celle que l'on entend à longueur de temps. J'en parle parce que vous aussi, vous débutez presque avec elle. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont vous dire, en vous écoutant, tiens, hey, génération fracassée, il ne faut quand même pas pousser la génération fracassée, c'est celle de 14, et vous n'êtes pas dans les tranchées, vous n'êtes pas non plus à Caluire en 1943. On a entendu certains responsables politiques, de tous bords hein, d'ailleurs, dire, avec le confort matériel dont jouissent les jeunes aujourd'hui, parler de génération sacrifiée est un petit peu excessif. Que répondez-vous à celles et à ceux qui, tous bords politiques confondus, peuvent encore dire cela ?
Bah, déjà, je dis que personne n'a fait la comparaison. Enfin, j'ai croisé personne autour de moi, chez mes amis ou même dans les articles, dire bah, « Regardez, on est semblable à Verdun, on est semblable à 1945 ». Non, personne ne l'a dit. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, voilà, collés à ce terme, fracassés, sacrifiés, cette image-là, personne. Évidemment que ce n'est pas la même chose. Je dis juste que les mêmes qui disent « Vous avez le confort matériel » sont les premiers quand même à critiquer les ordinateurs, les écrans, qu'on passe trop de temps sur nos téléphones. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont tous presque à se réjouir qu'on soit derrière un ordinateur, qu'on ait tout le confort matériel possible pour apprendre, alors que ce n'est pas du tout ça, la réalité. Ça provoque plein de questionnements. Et puis surtout, ce qui m'a quand même énormément fait rire, et c'est pour ça que je voulais le mettre d'emblée en entrée de chapitre, c'est quand même que ceux qui nous objecter cette réflexion, c'est des gens qui n'avaient pas connu la guerre. C'est même l'inverse. C'est des gens qui ont eu la chance.
C'est la génération née juste après la guerre.
Pendant les Trente Glorieuses. Et c'est très bien. Et ça, ce que Jean-Pierre Le Goff, sur le coup, ne me contredira pas. Les Trente Glorieuses et toute cette année-là en France, ça a été des années confortables. Ça a été des années où on avait encore de la méritocratie. On pouvait commencer au plus bas de l'échelle pour s'envoler au plus haut, avoir des rêves. Où on pouvait avoir du moins ces espoirs-là. Il y en a encore des exemples à la télévision. Donc c'est pour ça que ça me paraissait important d'objecter ça parce que, à mon sens, ce n'est pas vraiment entendable et c'est assez injuste.
Le mot fracassé est quand même très violent. Le Premier ministre a déclaré il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était sur cette antenne, sur France 5, il y a un mois, génération sacrifiée, non. La génération actuelle n'est pas sacrifiée. Vous allez encore plus loin avec ce mot fracassé.
Oui, parce que je veux sincèrement déjà que ça tape à l'œil, je veux interpeller avec ça, et le propos du livre est beaucoup plus nuancé. J'ai déjà eu la chance d'avoir quelques retours de personnes proches ou pas qui l'avaient lu, et qui en refermant le livre m'ont dit, il y a une réflexion, on réfléchit après le livre, et c'est ça que je veux provoquer. Et puis, fracasser, peut-être que c'est un peu fort, mais il suffit de voir quand même les images des files des étudiants qui s'allongent devant la banque alimentaire, de voir comment certains sont devant leur ordinateur, certains préfèrent dormir plutôt que dormir parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter à manger. rentrer. Certains pensent évidemment, et certains malheureusement franchissent ce pas de mettre fin à leur vie parce que c'est une situation insupportable. Certains ne voient plus leurs proches parce qu'en distanciel de 8h à 18h le week-end avec le couvre-feu, ils ne peuvent plus rentrer. Donc c'est des impacts qui, à mon sens, il n'est pas négligeable de souligner, bien sûr.
Ce mal-être étudiant, écrivez-vous, ce mal-être étudiant dont je parle, on l'a ressenti. Shahan Haddad, vous le ressentez, vous l'avez ressenti vous aussi, ce mal-être étudiant?
Oui, mais je crois que j'ai ressenti tous les gens qui étaient mal par rapport à cette période. Enfin, c'est une période qui est extrêmement complexe pour tout le monde dans tous les cas. Étant donné que je suis proche des étudiants et que j'en sors à peine de mes études, je peux dire que de manière rapprochée, on est fatigué, quoi, c'est sûr.
Vous avez vécu la bascule, c'est-à-dire que l'année dernière, à la même époque, vous étiez encore étudiante.
Oui, ouais, j'ai vécu le premier confinement où j'ai fini mon roman, en fait. Donc, c'est-à-dire que dans tous les cas, j'aurais été dans un tunnel de travail. Je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait vraiment à l'extérieur de moi parce que j'étais déconnectée, j'étais concentrée sur mon livre.
Mais vous êtes retrouvée dans la description que Maxime Yedo propose de ce mal-être étudiant. Il faut dire qu'il y a des pages qui sont glaçantes. Hein.
Je m'y retrouve maintenant.
Maintenant.
Parce que c'est le coup du 18h qui, je trouve, tape énormément sur ce qu'on peut appeler la contingence de la jeunesse, c'est-à-dire être libre de choisir de manière complètement spontanée. On ne peut plus être spontané. C'est ça la difficulté, je trouve, aujourd'hui. Mais nous, on est touchés parce qu'on représente la liberté, on représente la vigueur, la fureur de vivre. Mais je crois que plein d'autres, tout le monde le ressent, cette espèce d'absence de contingence, d'impossibilité de spontanéité, tout le monde le ressent.
La question de la liberté est au cœur, hein, Maxime Yedo, de votre livre. On a le sentiment d'ailleurs que c'est ça que vous remettez en question, que vous interrogez. Que veut dire être libre à 20 ans en 2021 ? Vous dites la première chose qui m'importe, c'est la liberté de nuancer. Elle s'est perdue, celle-ci aussi, peut-être, avec ce que Jean-Pierre Le Goff appelle très justement dans son livre le bavardage, le baratin des réseaux sociaux.
Et il en fait des pages brillantes, justement, sur les médias qui en font des tonnes, etc. Et là où vous avez totalement raison, c'est qu'en effet, évidemment que ça touche tout le monde. Je dis juste que tout le monde a été entendu, en réalité, avant les jeunes. C'est-à-dire que chacun a eu son petit quart d'heure de gloire, si je peux le dire comme ça, dans le sens où il y a eu d'abord les restaurateurs, il y a eu les enseignants, il y a eu les patients, il y a eu ceux en EHPAD, il y a eu les infirmières. Cela, on les a entendus. Ou alors, on a fait semblant de les entendre. Les étudiants, c'est jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines, c'était quand même un point un peu noir dans tout ce qu'on entendait. Et ensuite, la liberté, oui, je pense que la liberté en soi est devenue quelque chose qui a totalement disparu. Je vais me permettre de faire une petite référence à François Sureau, que je trouve absolument essentiel en cette période. Il a écrit un livre qui s'appelle Sans la liberté. Il le dit d'un point de vue très politique, mais je trouve qu'aujourd'hui, la liberté est quelque chose dont on ne sait plus avoir le plaisir, dont on ne peut plus vraiment ressentir l'importance. La liberté de nuancer en fait partie, mais aujourd'hui on voit bien que, sans revenir dans les vieilles marottes où on ne peut plus rien dire, la liberté d'opinion ou la liberté de donner son avis est soumise à énormément d'aléas, finalement.
Vous avez ce sentiment-là ?
Oui, et à la radio, je le sens aussi, parce que s'il y a les réseaux sociaux, on a évidemment le choix de s'en foutre, pour le parler vulgairement. On a évidemment le choix de les quitter, ces réseaux sociaux. Mais parfois, il y a les associations, il y a les gens influents, il y a ceux qui ont beaucoup de followers, de gens derrière qui exigent certaines paroles, ou sous prétexte qu'ils pensent ça, ils sont persuadés que c'est la parole incarnée. Et je trouve qu'il y a une première liberté qui est vraiment, en quelque sorte, maîtrisée par l'État. On l'a vu, je pense, on l'a tous un peu ressenti, ces choses qui nous arrivent d'un coup, avec un président qui nous parle un soir. Le lendemain, plus rien n'est pareil, l'atmosphère est particulière, et Jean-Pierre Le Goff le dit très bien, et ça pose, je pense, de véritables questions. Et il y a évidemment la liberté de nuancer aujourd'hui.
Dans votre livre, pardonnez-moi, je reviens sur ce point que vous évoquez, parce que dans votre livre, vous liez cette question de la liberté à ce que vous appelez l'infantilisation de la jeunesse.
Ah oui.
Comme s'il y avait une volonté quasi délibérée de parler aux jeunes, non pas comme à des jeunes, mais comme à des tout-petits.
Ah oui, c'est très vrai. C'est-à-dire que pour plein de choses, on est grand maintenant à 18 ans, parce qu'on a le droit de vote, donc on nous encourage à aller voter, on nous encourage à passer
à l'école. On vous culpabilise même de ne pas voter.
On culpabilise même de ne pas voter, vous avez raison, c'est très particulier. Et puis, il y a cette infantilisation qui a été alors là généralisée à tous les Français. On a bien vu certaines décisions. On pouvait aller à la plage, mais il ne fallait pas s'asseoir. On pouvait prendre les transports, mais il ne fallait pas faire ci. On pouvait aller au restaurant, mais il fallait aller que dans cet endroit. Il y avait plein de choses comme ça qui étaient un peu surnaturelles. Et je trouve que tout ça, il y a un délitement de la liberté qui est dingue. Et l'infantilisation en est une des caractéristiques. Et ce que je voudrais souligner enfin, c'est qu'aujourd'hui, il y a une marotte qui devient un peu presque drôle. C'est qu'aujourd'hui, pour garantir la liberté, on la supprime. On la met entre parenthèses. C'est-à-dire que tous les ministres aujourd'hui vous disent « Mais c'est normal, la liberté. Vous la ressentez un peu moins, bien sûr. » mais vous allez la retrouver. C'est-à-dire qu'elle n'existe plus pour mieux la retrouver.
Mais l'idée, attendez, tout à l'heure, Jeanne Haddad a commencé avec une phrase formidable sur le temps. La lecture, la littérature, c'est ce qui nous permet de retrouver le sens du temps. Là, on est là-dessus. Bien quand sûr. On vous dit, attendez un petit peu. Oui, que répondez-vous quand on vous dit, voilà,
c'est vrai,
on va vous en retirer un petit peu, mais attendez, soyez patient, c'est une pandémie mondiale.
Alors là,
je sens que ça vous agace et que ça amuse Jean-Pierre Le Goff.
Non, du tout. Je pense que si je me retourne vers l'historien, il me dira que dans tous les derniers exemples, même les plus modernes, malheureusement, quand il y a eu des états d'urgence, il y a un peu de pan de liberté. Et tout à l'heure, Jamel nous récitait Baudelaire en coulisses. Il y a une petite phrase aussi dans un poème qui s'appelle « L'ennemi ». Je crois qu'il avait envoyé à la Revue des Deux Mondes en 1855. Il y a dit « Le temps mange la vie ». Je pense qu'on est totalement là. Tout ce qu'on nous grignote, alors c'est pas essentiel, c'est pas nécessaire, comme diraient d'autres, mais c'est très important de les vivre, quand même, ces moments-là de liberté, avec des gens qu'on aime. C'est majeur.
Jean-Pierre Le Goff.
Oui, alors sur le temps, je pense que précisément le temps de la pandémie, c'est vraiment un jour sans fin. C'est-à-dire un sentiment de répétition un peu
le film, là.
Mortifère.
Ouais.
Un peu mortifère. Être jeune dans ce moment-là, alors qu'on a plutôt envie, excusez-moi, de s'éclater un peu, de vivre, etc., c'est pas du tout évident. Mais du point de vue des conditions de la jeunesse aujourd'hui, et notamment du milieu étudiant, puisque bon, moi j'étais étudiant dans un tout autre contexte, etc. Mais bon, simplement pour dire que dans les années 60, c'était quand même pas si merveilleux que ça. Faut pas oublier qu'il y avait des taudis. Moi je logeais dans, si vous voulez, les toilettes, c'était au bout du coup. C'était pas les chambres étudiantes à l'époque. J'avais des souris dans ma chambre. Bon, en plus, on n'avait pas pas grand chose. On pouvait
toujours
vivre,
le cas.
Il y avait beaucoup d'étudiants qui travaillaient aussi. Oui. Donc, si vous voulez. Alors, par contre, ce qui était différent, à mon avis, c'est le contexte social historique, on va dire. C'est-à-dire, vous étiez porté, paradoxalement, alors que vous aviez. Ça dépendait qui, mais moi j'étais plutôt privilégié pour dire les choses. Mais vous aviez des jeunes que je connaissais, qui venaient des milieux ouvriers populaires, qui vivaient pas si bien que ça. Simplement, le moral y était, si j'ose dire. C'était très bizarre. Vous vous sentiez porté par un mouvement historique.
Mais là, on a le sentiment, quand on lit, que ce soit Jeanne Haddad ou Jamel Chérigui ou Maxime Hielo, que le moral n'y est plus. Oui. Que la mélancolie, la douleur, l'insouciance n'existent plus.
C'est ça qui est terrible.
Mais la mélancolie et la douleur semblent avoir pris le pas.
Mais dans le bouquin de Jeanne Haddad, il y a une phrase qui m'a énormément marqué à un moment, quand elle évoque sa meilleure amie, elle souligne quelque chose, elle dit « ma meilleure amie dit que j'ai perdu en légèreté ». Je crois qu'il y a cette phrase. Ouais. Cette phrase, elle m'a marqué parce que c'est exactement ça. On nous dit « mais c'est pas grave de sortir ». Évidemment que c'est pas grave. Évidemment qu'il y a pire. On dit juste que déjà ceux qui nous font le reproche de pas sortir ont largement eu l'occasion de sortir et c'est pas parce qu'on le dit qu'on s'en plaint. On aimerait juste le dire sans être accusé de mettre des gens en réanimation et je pense que ça, c'est pas demander le bout du monde.
Si j'ai bien compris, vous dites pas la liberté, c'est sortir sans masque, faire des et défier la loi, c'est avoir la possibilité de regretter le monde d'avant. Exactement. C'est quand même fou parce que vous avez 22 ans et vous le dites à un moment, enfin, vous avez 22 ans mais vous regrettez déjà le monde d'avant, vous.
Ben, on m'a toujours accusé d'être un jeune vieux parce que je lisais, etc. Et je trouve que, mais en réalité, c'est un peu dramatique parce qu'aujourd'hui, dès que on a un jeune en face de soi qui n'est pas la caricature qu'on pense d'un jeune. On a une espèce d'étiquette un peu bizarre de jeune vieux, de vieux réac ou quoi que ce soit.
Mais attendez, je ne vous ai pas traité de vieux réac, pas encore.
Ouais.
On va y venir.
Mais non, je
non,
je
on n'y viendra peut-être pas d'ailleurs, parce que ce qui est très intéressant, c'est que vous n'êtes pas tendre à l'égard des 68ards. Enfin, j'ai pas l'impression non plus que vous soyez totalement en phase avec les pensées ultralibérales. On va pas parler de politique, mais je reviens juste sur cette génération. Alors Jean-Pierre Le Goff, évidemment, vous aviez dû la retenir, cette page. Je la cite en parlant des 68ards. Maxime Hiédo écrit ceci. Ils ont connu l'apogée. Ils ont connu une France apaisée, du moins plus que maintenant. Ils ont voyagé, ils ont pollué, ils ont ruiné l'économie, ils ont endetté le pays. Mais ils voudraient nous faire croire qu'ils seraient là pour le redresser. Ils ont profité, ils ont vécu, ils ont joui, ils ont interdit d'interdire, mais ne peuvent s'empêcher désormais de supprimer. Ils étaient les jeunes insolents de l'époque pour mieux devenir les vieux cons d'aujourd'hui.
Eh oui. Et la phrase est sévère à la relecture, mais je la trouve bizarrement assez juste. C'est-à-dire que mai 68, encore aujourd'hui, quand on le présente, c'est les étudiants qui se dressent, c'est la folie, c'est des pancartes dingues. Il est interdit d'interdire. Et aujourd'hui, quand on les entend, et ces gens-là, parfois, sont devenus philosophes, ils ont des tribunes dans les journaux, dans des livres, sur des plateaux télé, et on entend parfois un conformisme qui est dingue. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé entre celui qui brandissait la foule de sa jeunesse, alors outre l'âge qui passe, bien sûr.
Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu leurs 20 ans.
Oui, mais entre la fougue et enfiler, sans bronzer, trancher les chaussons du conformisme, il y a vraiment une évolution que je n'ai pas réussi à comprendre.
Jean-Pierre Le Goff, vous êtes... Effectivement, c'est aussi pour ça que je vous ai invité. C'est vous aviez 19 ans en mai 68, mais vous avez, après 1968, décidé d'arrêter vos études. Et vous êtes parti, militant, travailler auprès des ouvriers, des ouvrières, en banlieue notamment.
Oui, effectivement, je suis allé à Dunkerque, je suis allé à Roubaix, j'ai bien connu le Nord, qui n'était pas du tout la figure du Nord d'aujourd'hui. Roubaix, il y avait encore des courées, donc on cherchait, si vous voulez... Moi, j'étais militant, donc on cherchait un peu le mythe de la classe ouvrière qui commençait déjà à bien être... à finir, quoi. C'était la fin de tout ça. Mais ce que je voudrais dire quand même sur la génération 68, c'est qu'il y avait une dimension de transgression. Mais il n'y avait pas l'assurance qu'elle est avec. C'est-à-dire, c'était pas « donnez-nous les moyens de la transgression ». Vous transgressiez, y compris la loi, ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Vous transgressez la morale, ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Ce qui est très paradoxal, à mon avis, au moins dans certains milieux que je trouve assez conformistes de l'anticonformiste, si j'ose dire, les nouveaux conformistes de l'anticonformiste, c'est qu'on transgresse l'État, donnez-nous les moyens de la transgression. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'on reviendra sur des situations différentes. Mais c'est ça, il y a un rapport très ambivalent à l'État. Nous sommes victimes. Alors il y a une chose, je suis très critique sur l'héritage impossible de mai 68, j'ai écrit un livre là-dessus. Oui. Mais il y a quand même quelques slogans qui me restent, si vous voulez. Je peux pas abandonner. Ne me libère pas, je m'en charge.
Vous prenez ça, Maxime Yedo ? Celui-là, vous le prenez.
Mais même, il est interdit d'interdire, ça allait parfaitement avec l'éloge de la liberté. Ouais. Je le trouve formidable.
Mais, comment expliquez-vous ? Parce que Maxime Yedo met le point quand même.
Pour moi, ce n'est pas un héritage possible.
Oui, mais attendez, pardonnez-moi, Jean-Pierre Le Goff. Maxime Yedo met quand même le doigt sur un point sensible. Comment expliquer qu'à 20 ans, il y ait eu une jeunesse qui ait décidé d'interdire et qui aujourd'hui, avec 4 fois 20 ans ou presque, disent on va supprimer les libertés des jeunes d'aujourd'hui ?
Mais ce n'est pas simplement les libertés des jeunes, excusez-moi, c'est les libertés
de tout le monde, d'ailleurs.
C'est-à-dire que les jeunes... Non, le problème, c'est comment on sort du statut de la victime. Pour moi, c'est ça. Parce qu'on est dans une société extrêmement victimaire, si vous voulez. Alors, il y a les vieux qui sont victimes, alors on va les traiter de vieux cons, etc. Mais il y a les jeunes, ensuite, vous avez les femmes, ensuite, vous avez... Et alors, comment on fait pour vivre dans une société qui serait à ce point victimaire, où il n'y aurait plus de dynamique sociale ?
Ça, c'est le cœur de votre livre aussi.
Oui, mais je
pense que vous sentez que victime.
Ça me paraît très important, ce qui vient d'être dit, c'est que, contrairement au titre qui peut laisser cette apparence, je ne pense pas que ce soit un livre ouin-ouin, un livre de pleurnicherie ou un livre de victime. Au contraire, les quelques témoignages que je livre, les analyses que j'essaye de dresser, c'est quelque chose d'assez factuel. Et quand vous dites, en effet, tout le monde, on supprime la liberté de tout le monde, c'est vrai, et je le dis dans le bouquin, je dis juste qu'il est peut-être que je me trompe, un peu plus difficile d'être confiné dans 9 mètres carrés quand on habite à Nantes, à Paris, dans les grandes villes, auprès des grandes universités, que quand on a eu la chance, en effet, de vivre 68 et de profiter, de grandir, de travailler, certes, et de mériter une maison avec un jardin. Je dis juste que l'un est peut-être plus difficile de l'autre, mais peut-être que je me trompe.
Vous citez en ouverture de votre livre cette phrase de Georges Bernanos. « Hélas, c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. » C'est génial. « C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. »
Je le trouve formidable. Oui, elle dit tout. Je découvre un peu Bernanos sur le tard grâce au conseil de François Sureau. Il y a une préface merveilleuse dans Les cimetières sous la lune, je crois, notamment. Donc c'est quelque chose d'assez dingue. Et cette phrase résume tellement l'atmosphère du moment. La jeunesse est normalement censée être tout l'avenir du pays. Et quand on voit la façon dont on pose une sorte de torchon pour pas trop qu'on la voit, c'est quelque chose qui m'effraie autant que ça me surprend.
Est-ce qu'elle a encore la fièvre ?
Je ne sais pas, faudra lui demander, j'espère.
C'est vous la jeunesse,
oui,
vous le demande.
Mais je pense qu'elle a formidablement, et on le voit, regardez sur le climat, ce qui s'est passé, regardez aujourd'hui tous les mouvements qu'on voit émerger sur les réseaux sociaux, et je suis loin de ne pas les critiquer, ces mouvements, mais ils existent parce qu'il y a des jeunes qui se mobilisent contre les féminicides, contre les violences faites aux femmes, contre le climat, contre toutes ces actions, il y a des jeunes qui sont mobilisés. Seulement, on les écoute, mais on ne les entend pas.
Il y a des très bonnes pages là-dessus, justement, sur ce silence, sur cette parole et ce refus d'écouter. Et puis également sur l'idée que la crise décourage les jeunes. Mais est-ce que la crise peut accélérer aussi ce sentiment d'urgence qui est celui dont parlait Bernanos, cette fièvre ? Est-ce que cette période de crise peut devenir, est-ce qu'on peut aller renverser la table et se dire que c'est précisément autre chose, une urgence de vivre, une envie de dépasser tout cela qui peut animer demain votre jeunesse.
Je l'espère infiniment et pour ça, je le crois. Il faut d'abord que le constat soit partagé par tout le monde. Je pense que si on est à peu près d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse qui souffre, ce qui est un euphémisme, je pense, à partir de ce constat-là, je pense qu'on pourra avancer. Parce que si autant de jeunes aujourd'hui ne l'ouvrent pas, pour parler un peu vulgairement, si aujourd'hui beaucoup de jeunes ne se manifestent pas, c'est parce qu'ils se disent « de toute façon, je ne serai pas écouté ». C'est-à-dire que j'aimerais qu'on sorte, toute cette génération, j'aimerais qu'on sorte du « sois jeune » et c'est tout.
C'est une autocensure ?
Il y a une autocensure et il y a vraiment quelque chose de « quand je parle, on n'écoute pas ». Il faut voir, sincèrement, il faut voir, on a eu des images ces derniers mois, je pourrais donner des exemples historiques, et ici Jean-Pierre Le Goff le fera certainement mieux, mais il y a eu des images quand même très récentes encore de ministres qui parlent beaucoup de respect, tout le temps normalement, et qui, dès qu'ils voient un jeune, tutoient. Alors, c'est pas la fin du monde, mais c'est parfois, c'est des images surprenantes. Et on a eu parfois ces jeunes qui se plaignaient, on a eu des réponses « oui, mais d'accord, vous êtes privés de sortir, pourquoi vous ne vous retrouvez pas entre vous ?» On a eu parfois des réponses hallucinantes de gens qui pourtant avaient des jeunes et on avait l'impression qu'aujourd'hui, ce souvenir n'existait plus.
Il y a beaucoup de choses dans votre livre et un point que je ne peux pas m'empêcher de relever, mais on parlait de Bernanos à l'instant, sur la lecture, vous écrivez page 97, il faudrait peut-être s'interroger sur ce qui nous a détourné des grands textes. Qu'est-ce qui vous a détourné des grands textes, vous, à 22 ans ?
Parfois, c'est un regard arrogant. Quand on lit... un premier livre une première fois, ou même au lycée, peut-être qu'on ne comprend pas Madame Bovary comme on peut le comprendre à 20 ans, à 22 et même à 44. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui lise Proust aujourd'hui réussisse à avoir toutes ces nuances, toutes ces subtilités de mots, et ça ne lui ferait peut-être aucun écho. Pour vous donner un exemple, j'ai un livre fétiche depuis des mois qui s'appelle « La chute ». Je l'avais lu une première fois, j'avais parcouru les pages de Camus. J'avais parcouru les pages, je m'étais dit « bon, c'est certes un bon livre, mais... » C'est un livre d'Albert Camus.
Vous l'aviez lu à quel âge la première fois quand vous parcouriez les pages ?
À 18 ans. Ouais. À 18 ans.
Et à 22 ans, 4 ans après, tout change.
Tout change et c'est devenu une bible. C'est-à-dire que quand j'ai pas 3 livres aujourd'hui dans ma petite sacoche que je me balade, si j'ai pas La Nuit sera calme de Romain Gary avec les dernières pages qui sont un pur délice, quand j'ai pas La Chute de Camus où il y a des pages surtout, c'est-à-dire que Camus, quand on lit La Chute, on a l'impression qu'il prend le scalpel, qu'il prend vos émotions, qu'il les dissèque tellement les phrases sont justes, tellement les mots sont claquants. Donc et quand on va dans certaines émissions, certains parlent des livres avec une telle prétention, avec une telle hauteur qu'on se dit « mais jamais je pourrais avoir ça ». Et heureusement, et on parlait des images, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, c'est vous, Jamel, qui disiez ça quand on disait « j'ai commencé par regarder des vidéos ». Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens, vous en faites partie, et je le dis sans flagornerie, des gens qui arrivent à communiquer cette envie de lire. On a des gens comme François Sureau qui a ce talent de parler d'un auteur, de le réciter. On a des gens comme Fabrice Lucchini, on ne connaît pas Baudelaire, on va le voir au théâtre et même si on paye 15 euros la place, on a une place tout en haut et on l'entend réciter. Du Victor Hugo, du Baudelaire, on a des gens comme Édouard Baird. On a des gens comme Édouard Baird qui sont là, qui sont à la radio, qui allument un micro, qui ferment les yeux, qui récitent Romain Gary, justement, qui récitent Albert Camus, qui récitent Bukowski, qui récitent...
Donc c'est ça, aujourd'hui, dont vous avez envie, en réalité.
Ah oui.
On revient à la question de la liberté, c'est-à-dire finalement un regard libre posé sur les livres,
bien sûr,
sur la lecture.
Exactement, et heureusement qu'on a des gens, c'est-à-dire que plutôt que de prendre tout ça avec prétention, heureusement qu'on a des gens qui nous prennent par la main et qui nous disent « regarde, pourquoi tu devrais aller vers ça ?»
Jamel Chérigui, j'aimerais bien vous entendre sur cette question que pose dans son livre Maxime Yedo. Qu'est-ce qui nous a détournés ou qu'est-ce qui... peut nous avoir détourné des grands textes. Que répondriez-vous ? Vous êtes en accord avec ce qui vient d'être dit ?
Ben, moi, je n'ai pas vraiment eu l'impression d'être... Quand je lisais les grands textes, quand j'ai lu les grands textes derrière le comptoir de mon épicerie, je n'avais pas l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel ou de... J'ai pris les grands textes parce qu'ils étaient le mieux exposés en librairie.
Mais qu'est-ce que vous lisez, par exemple ?
Ben, ça dépend des siècles. Mais en grand texte, j'ai lu Rousseau, que j'ai beaucoup aimé, Les Confessions. J'ai trouvé un vent de liberté, un souffle dedans que j'ai rarement trouvé chez d'autres écrivains. Beaucoup Céline aussi, notamment Mara Crédit.
Hey.
La première fois que je l'ai lu, je me suis dit... ça a vraiment été un tournant, Mara Crédit.
Mais à quel âge l'avez-vous lu ? Parce que Maxime disait tout à l'heure, ça c'est important, il y a la question de l'âge. À 18 ans, vous pouvez passer totalement à côté d'un chef-d'œuvre, et puis vous le reprenez 3 ans plus tard, vous vous dites « mais pourquoi est-ce que je suis passé à côté ?» C'est quand même génial.
Je l'ai découvert, je devais avoir 27, 28 ans. Et ça a été... Ah oui. J'entendais la semaine dernière Philippe Delerme sur votre plateau dire que... Le Grand Mole n'a été une seconde naissance pour lui.
Ouais.
Moi, ça a été Mara Crédit. J'ai lu et je me suis dit, mais on a le droit de dire ça. C'est ça, en fait, la littérature.
Et d'écrire
comme
ça.
J'avais pas conscience de ça.
Ouais.
Je me permettrai pas de le dire, mais d'y tendre tout au moins. Mais Mais c'est vrai que j'ai pas eu conscience de lire des grands textes. J'ai lu ce qui me tombait sous la main, en fait, un peu. Et je crois un peu à cette magie des librairies où on prend les livres au hasard. Et comme si on quelqu'un d'autre les avait choisis pour nous et que c'était comme une évidence, en fait.
Il y a énormément de... On apprend beaucoup de choses en lisant votre livre. On entend une colère et puis on découvre aussi, je trouve, une réflexion extrêmement structurée. Génération fracassée aux éditions Fayard. Ça sort aujourd'hui sous la signature donc de Maxime Yedo. Alors tiens, puisqu'on parle de transmission, de la lecture et qu'on donne ce soir la parole aux jeunes qui aiment lire loin de ces clichés et de ces idées reçues, je voudrais partager avec vous une découverte, alors récente, toute récente et complètement par hasard. C'est une toute jeune fille qui est encore plus jeune que vous, Shan Haddad et Maxime Yedo, puisqu'elle n'a que 17 ans. Elle est passionnée de littérature et elle parle de ses lectures sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram qui s'intitule « La bibliothèque de poche ». Vous allez voir que les jeunes lisent, et très bien, mais surtout qu'ils savent transmettre. Elle s'appelle Lola Moreau, retenez bien sur Instagram, « La bibliothèque de poche ». Allez voir, retenez son nom, c'est la relève.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle chronique de la bibliothèque de poche. Je suis ravie de vous retrouver ce dimanche.
Le livre que j'ai décidé de présenter en premier, donc c'est le livre classique, c'est « Les nuits blanches » de Dostoïevski. Cet auteur, je l'ai découvert cette année parce que j'ai la chance de faire russe en prépa. Il est absolument fantastique et je trouve qu'il est sublimé par la traduction d'André Markovitch. Alors, cette histoire, Les Nuits Blanches, c'est le récit d'un jeune homme, d'un jeune rêveur de Saint-Pétersbourg qui, par une nuit noire et glaciale, va trouver sous un pont une jeune fille qui est seule, perdue, isolée, qui est déplorée parce qu'elle vient d'être quittée par son amant. Et au fil du roman, ils vont se retrouver tous les jours, ils vont se parler, se bercer dans une sorte de flamme naissante. Et malheureusement, les événements ne vont pas se passer comme prévu. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un livre absolument passionnant, qui est donc Une farouche liberté, de Gisèle Halimi. Je connaissais déjà Gisèle Halimi avant de lire ce livre, mais lire son témoignage, lire son histoire, ça la rend tellement vivante et en a envie de participer à son combat. Et en fait, c'est ce qu'elle veut, c'est transmettre cette révolte féministe. Alors, même si vous n'êtes pas féministe, même si vous n'êtes pas une femme, je pense que la cause est défendable par tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller acheter le livre, c'est un livre en plus super récent. Donc, bonne lecture, j'espère que la vidéo vous aura plu et à très très vite pour une nouvelle vidéo.
La bibliothèque de poche, elle a 17 ans. Jean-Pierre Le Goff.
Non, mais bon, je veux dire, il y a quand même une transmission. On dit qu'il y a une rupture de... Il y a quand même quelque chose qui se transmet par la lecture. Et ça, encore une fois, ça fait très plaisir.
Elle est formidable.
Elle est dingue.
Ah, ça, j'avoue, c'est assez étonnant. Je ne connaissais pas du tout.
Allez, on va continuer. 17 ans, 22 ans, 35, 24 ans, Shan Haddad. Je le disais tout à l'heure, vous avez grandi en région parisienne. Vous vivez désormais au Havre, où vous avez suivi un master de création littéraire. Et vous publiez votre premier roman, que j'ai trouvé très beau, très fort, dans un genre et dans un style bien particulier, qui défie les codes. Alors, il est à la fois ce livre minimaliste, est tendu comme une arbalète vers le drame. Tony tout court, c'est aux éditions POL. Vous racontez, Shan Haddad, une journée dans la vie d'une jeune femme. Elle se prénomme Tony, tout court. C'est son anniversaire. Elle a 20 ans. C'est le jour de son anniversaire, mais c'est aussi jour de match. Ah, match de foot. Et toute sa journée sera tendue vers cette soirée au stade parmi les anonymes qui peuplent les gradins. C'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte que nous raconte Shan Haddad dans ce roman qui est aussi le roman d'une errance à travers la ville. Alors on est à l'appartement, au stade, en passant par les cours à la fac, le restaurant, le parc, les lieux. Avoir 20 ans aujourd'hui, avec son lot de questions quand on passe du statut de jeune fille à celui de jeune femme. Voilà aussi l'un des sujets de ce roman, me semble-t-il. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire, cette façon de raconter la fin de l'adolescence et puis le jour des 20 ans d'une jeune fille, le passage à l'état de femme ou de jeune femme?
Alors déjà, quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais 22 ans, donc j'étais pas loin de ma vingtaine. Et comme je commençais à écrire, que je rentrais dans un processus qui m'était intime et cher, j'avais envie de symboliser l'écriture à travers Tony. Et Tony qui donc marche toute la journée en attendant d'arriver dans une tribune, c'est aussi le chemin que moi j'ai dû faire pour me mettre en écriture, rentrer dans le processus. Et au moment où j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à changer. Quelque chose en moi a bougé, a tremblé.
plus que lorsque vous êtes passé de 19 à 20 ans, de oui. manière, j'allais dire, mécanique et biologique.
Oui, vraiment, parce que le moment où j'ai commencé à écrire ce projet-là, donc celui que je tenais vraiment, que je défendais en fait, j'ai assumé pleinement que je voulais écrire.
Qu'est-ce que l'écriture a mis en marche chez vous, qui n'était pas ?
Ah, alors ça, elle a mis en marche la conscience de mon corps. C'est-à-dire que je ne l'avais pas avant. Je ne savais pas ce qu'était être une femme. C'est-à-dire être un homme qui n'est pas un homme. Être un humain qui est une femme. C'est quelque chose qu'on on ne nous le définit pas à l'école. C'est, on ne l'apprend pas. On l'apprend pas. Et j'ai fait, donc...
On a des cours, si je vous suis bien, on rejoint ce que dit Maxime Yedo. On a des cours de sciences naturelles, on a des cours d'histoire, où parfois on peut même avoir des profs passionnants qui vous initient à l'histoire des femmes, du féminisme. On a des cours de lettres, on a des cours de philo. Mais malgré cela, l'école ne vous apprend pas ce que c'est qu'un corps de femme, ce moment aussi de ce qu'est une femme qui peut avoir envie d'écrire.
Non. On n'en parle pas. Et ce n'est pas du tout pour dire que l'école est nécessairement mauvaise, parce que j'ai eu des profs exceptionnels qui m'ont appris la littérature et qui m'ont mis dans le processus d'écriture. Mais en fait, on annule le corps de la femme. C'est, moi, l'histoire du féminisme dont vous parlez, je ne m'en souviens pas. Je me souviens des tranchées, je me souviens de la guerre, je me souviens des hommes au front, je me souviens de Balzac, de Zola, de Molière. J'ai aucune femme là-dedans. Dans mon paysage littéraire, dans mon imaginaire culturel de l'école, je n'ai pas de femme. Et mon travail, ça a été de, et pas que le mien, de toutes les femmes que je connais aujourd'hui, ça a été de déconstruire la pensée qu'on a construite à l'école. Ça a été une zone d'apprentissage, hein. Je ne dis pas le contraire. J'ai quand même lu, j'ai lu Céline. Pour moi, c'est Voyage au bout de la nuit. J'ai refusé de lire la suite.
Pourquoi ? Ça ne vous a pas plu, le voyage ?
Voyage, j'ai adoré. Ah, ça voilà. m'a absolument structurée, je pense. J'ai lu Balzac, j'ai lu Zola.
Jamel, il faudra donner des arguments à Shan, à Dad, pour lire Mort à Crédit.
Je pense qu'elle pense qu'il y a des propos plutôt...
Non, j'ai commencé Mort à Crédit, mais j'ai voulu garder Céline dans Voyage dans de la nuit. Voilà. Mais après, c'est des ambitions personnelles, parce que je me tourne vers une autre littérature.
Certains disent que c'est son vrai chef-d'œuvre, enfin son chef-d'œuvre... Mort à Crédit plus que Voyage au bout de la nuit.
Oui, c'est vrai.
Je suis de cela, moi.
Mmh. Non, mais c'est vrai
que bon, elle a le temps, hein, cela dit.
Oui. Oui. Non, mais j'ai le temps de m'y replonger, disons. Là, je suis partie justement sur une cartographie féminine plutôt. Pas pour m'enfoncer dans un chemin, mais pour entendre parler d'autre chose.
Parce que ça répond aux questions que vous vous posez. On revient à votre roman. Vous avez choisi, ne serait-ce que cela, un prénom pour votre héroïne, qui est un prénom épicène, comme on dit. Il va aussi bien à un homme qu'à une femme. Tony. Tony tout court, Tony avec un I. Pourquoi un prénom qui peut être aussi bien masculin que féminin, avec une mère qui lui parle au masculin, qui lui dit « mon chéri » ?
Parce que c'était un personnage de fiction. C'était mon premier personnage de fiction. Et je voulais qu'elle soit... de tous les bords, disons, qu'elle puisse avoir l'imaginaire qu'un homme ou qu'une femme peut avoir. Je ne voulais pas l'isoler dans une enveloppe féminine, comme énormément de personnages masculins ont été isolés dans cette espèce d'enveloppe avec plein d'ambitions, déterminées, pratiquement constamment sexistes. Je voulais pas faire le contraire de ça.
Il n'y a pas de description, hein, d'ailleurs, sauf les cheveux. Mes cheveux.
Détail. C'est ouais. un détail, mais je ne décris pas les cheveux.
Oui, c'est vrai. C'est très marquant dans le roman, mais c'est vrai. Et tout au long du roman, on a l'impression de retrouver la phrase « on ne naît pas femme, on le devient ». C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du roman, on voit l'évolution, c'est stupéfiant.
Oui, en fait, l'idée, c'était que Tony, je ne sais pas si c'était grandir, mais en tout cas, découvre. Et on se découvre femme en comprenant ce qu'est l'homme d'abord. C'est comme ça qu'on nous l'apprend à nous, femme. Et Tony devait aussi passer par la case un peu masculine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se fermer à l'opposé. C'était ça l'idée. Et mon prénom, Shan, est aussi un prénom d'homme. Mmh. Et j'avais envie de lui donner de ça aussi, c'est-à-dire que j'avais envie de lui donner de l'expérience. L'expérience que moi j'ai eue. Je ne pouvais pas partir d'autre chose que de mon expérience à moi. C'était impossible, je ne peux pas prétendre autre chose. Et elle marche toute la journée, pas forcément en trouvant une identité, mais en tout cas en comprenant que quelque part, il y a une place pour elle.
Qu'est-ce qu'il faut laisser derrière soi quand on fête ses 20 ans, aujourd'hui, en 2021 ?
Je crois que c'est pas laisser derrière soi quelque chose, c'est autre chose. je ne crois pas qu'il faille nécessairement le laisser. Tony, elle, pendant qu'elle marche, ne fait que se souvenir, ce qui est assez douloureux, parce que c'est-à-dire que les choses reviennent à elle malgré elle. Elle essaye pas de les laisser, elle essaye maintenant de voir devant. À la fin, c'est le maintenant, c'est l'ici et le présent.
Mais est-ce que ça implique, parce que c'est le sentiment qu'on a aussi à suivre l'itinéraire de votre personnage, est-ce que ça implique, regarder devant, d'abandonner la légèreté, l'insouciance? Ce qui fait, Maxime Hiédot le disait, le sel de la jeunesse.
C'est gagner une autre légèreté, une légèreté qui a un certain poids. Parce que la légèreté de l'adolescence, c'est une légèreté qui n'est pas consciente. Le moment où on rentre dans cette espèce d'étrange terrain entre l'enfance et l'âge adulte, c'est un moment, vraiment précisément les 20 ans, il y a une espèce de candeur qui s'installe, où on est persuadé de ce qu'on pense, on le pense réellement. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'elle pense, Tony, elle n'est pas exactement sûre de le penser, mais elle a la candeur de le penser.
Vous écrivez à un moment... Tony n'est ni une adolescente, ni une adulte. Je suis l'entre-deux.
Ouais. Pour moi, ça, c'est un personnage de fiction. C'est un entre-deux. C'est ni la réalité, ni totalement l'imaginaire. C'est quelque chose qui vient se superposer au réel.
Page 122. L'adolescence est une salope. Rien ne fleurit. Tout est pustule, déception et incompréhension. Ils ne savent rien.
Ouais, il y a une radicalité que j'aime beaucoup, moi, dans l'adolescence. Que j'ai pu retrouver par exemple chez Russell Banks ou chez Violette Le Duc ou chez tellement d'auteurs, qui est magnifique parce qu'elle a un terreau poétique.
Ça n'a pas beaucoup changé, hein, Jean-Pierre Le Goff, depuis que votre génération, et puis même la mienne, lisait Aden Arabi de Paul Nizan avec cette phrase extraordinaire « J'avais 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie
». Mais il y a quand même une différence par rapport à Nizan. C'est que Nizan, c'est dans un moment extrêmement critique par rapport au capitalisme et à l'impérialisme.
Ça, il y a un siècle, hein, à 10 ans près.
Voilà, c'est vraiment... Alors, c'est vrai que c'est pas le... Il y a une espèce de révolte contre le monde qui existe chez Nizan qui va se traduire par un engagement, ce qui est très différent de la période actuelle. Où là, la difficulté, je veux dire, et c'est ce qui m'a frappé dans ce roman, je veux dire, c'est presque toucher les choses. C'est-à-dire d'avoir une épreuve du réel où vous êtes sensible. On a l'impression d'un personnage... Moi, je parle dans mon livre, J'étais malade, on voit le monde à travers une vitre. Et ça m'a donné cette impression-là, avec tout un parcours d'errance. Parce que pour moi, c'est un peu le passage de l'enfance à c'est une espèce d'errance adolescente qui va jusqu'au... Alors là, le stade de foot. Mais alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand même, il y a une grande solitude, je trouve, dans ce roman, qui est très, très particulier. Moi, j'ai eu du mal à entrer dedans parce que le style est très particulier. Et puis surtout, on parle à la troisième personne, etc. Donc, on rentre dans un univers très intérieur, d'une certaine façon. Et alors, la fin est très intéressante.
Parce attendez, on ne va pas vous raconter. Parce que si on commence à raconter la fin, vous savez ce qui se passe dans cette émission. Et c'est normal. Nos téléspectateurs qui disent, non, vous pouvez pas nous... on ne peut pas divulgâcher Jean-Pierre Le Goff. Mot quand même sur ce que vous venez de dire, le style. Et ça, j'aimerais, Shahan Haddad, que vous nous expliquiez. Parce que je vais vous faire un aveu. J'ai vraiment, mais vraiment, beaucoup aimé ce livre. Et pourtant, la première fois, j'ai été dérouté. Dérouté. Alors du coup, j'ai fait ce que font... c'est pas forcément les mauvais lecteurs. Vous êtes dérouté, vous dites, c'est pas pour moi. Puis à un moment, vous dites, quand même, je vais le reprendre. Et là...
L'étincelle.
Ah oui, l'étincelle. C'est exactement ça, l'étincelle. Mais il faut dire que vous alternez le style direct et le style indirect, que les phrases sont très courtes et puis d'un coup un peu plus longues, que vous écrivez à la première personne du singulier et à la troisième personne du singulier dans une alternance qui crée le rythme également. Il y a un petit côté nouveau roman, tendance Michel Butor, années 60, hein, les lieux, la modification. Pour quelle raison avez-vous choisi, j'allais dire, cette voie étroite pour entrer en littérature ? C'est hyper audacieux.
Si ça avait été un choix, je pense que je ne l'aurais pas tout à fait fait, parce que je sais que c'est compliqué. Mais la première page que vous lisez dans le roman, elle n'a pas bougé. Elle est arrivée comme ça tout de suite. Au bout de 6 mois de réflexion, un jour, je me suis mise à écrire. Le jeu de Tony est arrivé, puis le L. Et en fait, ce L, donc, c'est-à-dire que c'est soit un narrateur, soit un auteur qui regarde de l'extérieur et qui parle de Tony. Ça pourrait aussi être Tony qui se regarde à la troisième personne, donc qui est une espèce d'étrangeté entre elle et elle-même. C'est le rapport que moi j'ai eu de moi-même à moi-même en tant qu'écrivain, écrivaine, et de moi-même à Tony. et aussi le rapport de Tony à elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne fait que sortir de son corps. Je n'ai fait que sortir de mon corps en écrivant. Parce que c'est très proche. En fait, l'écriture est tellement proche de
mon processus d'écriture. Vous l'expulsez, un corps. Il y a tout sur le corps. Il y a la plaie. Il y a cette chose qu'on ne sait pas identifier, mais qui est serrée entre la gorge et le ventre et qu'on va expulser. Il y a bien évidemment le corps des autres, l'haleine des autres. Voilà. Il me semble que c'est aussi un grand livre sur l'invisibilité. Je voudrais qu'on revienne à notre sujet, qui est qu'est-ce qu'être jeune aujourd'hui ? Est-ce que je me trompe quand je dis en vous lisant, être jeune pour Shana Dad, c'est être invisible ? Ou alors c'est vouloir être invisible ?
Pour Tony, ça l'est.
Bon, d'accord. Ça y est. Et ils sont hyper rodés, c'est-à-dire que ça va. Premier roman, 24 ans, on commence déjà à vous dire « Non, c'est pas moi, c'est mon personnage. Confondons pas. » Bravo, hein.
Ouais. Non, mais il y a une.
Vous croyez que je vais gober ça ?
Il y a une mise en distance nécessaire parce que je ne suis plus du tout dans le. Ce que j'étais quand j'ai écrit ce livre, je ne le suis plus aujourd'hui.
C'est le livre qui vous a transformé ?
Il y a de ça, oui, c'est sûr.
Mais quand vous écrivez, vous dites Tony est aussi un personnage qui porte une partie de moi-même. Quand vous écrivez ?
Oui. C'est-à-dire qu'elle porte une intimité et dans le processus d'écriture et dans la mise en fiction.
Alors je vous pose la question autrement. Qu'est-ce que c'est que cette partie de vous-même qui, à 22 ans, quand vous avez écrit le livre, voulait l'invisibilité plutôt qu'autre chose, qui va au stade pour être anonyme parmi les supporters, qui, au restaurant, est une voix que l'on n'entend pas parce qu'il y a le balai des serveurs et le brouhaha de ceux qui dînent ou qui déjeunent. Pourquoi ce désir d'invisibilité à 20 ans ?
C'est un mélange de deux choses, c'est-à-dire que d'abord, dans l'urbanité, comme on l'a vu aujourd'hui, je trouve qu'il y a une mise en invisibilité de l'individu. Par exemple, quand on regarde ce qui se passe dans le métro, les portiques, les bruits qu'ils émettent, les petites lumières, les écrans qu'il y a maintenant dans les couloirs, qui sont énormes. L'absence des conducteurs. Je parle du métro parce que c'est ce que, par exemple, un Parisien ou quelqu'un qui vit dans une grande ville vit constamment, les transports. On commence à annuler l'homme, on commence à annuler l'individu. Les réseaux sociaux, il y a quelque chose d'extrêmement anonyme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est derrière le
nom. Est-ce que vous y êtes, vous, sur les réseaux sociaux ?
Depuis pas très longtemps, j'y suis.
Oui. Depuis et pas très longtemps. Maxime Niedot est très actif. Jamel, vous êtes sur les réseaux sociaux ?
C'est la thèse qui m'a conseillé de faire un Instagram.
La stratégie.
Ça, c'est de la stratégie. C'est la stratégie de votre éditeur. C'est bien. Qu'est-ce qui résistait en vous ? Pour aller sur les réseaux sociaux et qui, semble-t-il, a l'air de résister encore un peu.
Oui, c'est... En fait, ça m'apporte... Je rigole beaucoup sur les réseaux. C'est-à-dire que c'est un moment où je peux me divertir. Pas par rapport aux autres qui commentent, hein, c'est pas du tout ça. Il y a des gens qui sont très drôles, qui ont beaucoup d'humour dans l'image.
Mais Maxime Niedot le dit très bien dans son livre. Hein, on peut, à 20 ans, avoir la capacité de lire et Victor Hugo et de rigoler bien devant sûr. Un nanar ou de jouer à la oui. PS5.
Bien sûr.
Merci.
On peut tout faire.
On peut jouer à Apex, GTA et ouais. Lire Victor Hugo après. C'est pas
mais il y a une très belle diversité, moi, je trouve, dans la culture jeune. Hein. C'est juste que, moi, c'est, en fait, je pense que c'est l'écran. C'est avoir quelque chose entre les mains, ça m'est très important. D'avoir l'odeur, d'avoir la matière, de faire un mouvement avec la main. Ça, c'est important, ça met en espace le corps.
C'est un livre sur la ville. Dans la ville, il y a le stade. Et vous lancez un pont entre aussi la littérature et le football. Est-ce qu'il y a un lien entre le foot et la littérature ? Et pour vous, pardon, mais pour vous, jeune femme, quel est-il ?
Pour moi, il est la représentation de la diversité, de l'hétérogénéité et de la joie. Il y a quelque chose dans une tribune que je ne connais nulle part ailleurs. C'est tout d'un coup une foule qui ne se connaît pas et qui décide de se tenir dans les bras. Enfin, ça paraît anecdotique, mais c'est énorme. Quand je vous parlais tout à l'heure du métro, des transports en commun où tout est aseptisé, c'est exactement...
C'est l'autre foule, hein, c'est très bien vu, je trouve, dans le livre. Elle prend le métro et il y a deux foules. Il y a la foule qui va se retrouver au parc, au stade plus exactement, et puis cette foule qui, un quart d'heure avant, ne se regarde pas, ne se touche pas.
C'est ça. C'est pas un drame que les gens ne se touchent pas dans les transports parce qu'ils font ce qu'ils veulent, mais là, ce qui est incroyable, c'est qu'on se retrouve dans le stade. Mmh. On a tous un seul objectif, c'est de regarder le terrain et de dire « oui, je suis là pour vous ». Je vais vous supporter, je vais vous porter, tous ensemble.
Sur le mot supporter, parce qu'elle dit à la fin, je suis un bon supporteur. Qu'est-ce qu'elle supporte le mieux, le foot ou la vie ?
Elle essaye de mieux supporter la vie qu'elle ne supporte le foot.
Tony tout court, sous la signature de Shan Haddad, premier roman, et souvenez-vous bien de son nom, Shan Haddad. Vous allez beaucoup en entendre parler, à mon avis. On va rester du côté de la jeunesse avec notre grand concours. Si on lisait à voix haute, plus de 130 000 jeunes se sont inscrits cette année dans toute la France, de la 6e à la terminale. Les éliminatoires sont actuellement en cours et évidemment, ils seront plus que 10 à participer à la grande finale qui aura lieu le jeudi 17 juin sur France 5, notez-le, pour se préparer au mieux. Alors vous le savez, chaque semaine dans l'émission, je vous propose des conseils. Ce soir, conseil d'un comédien de théâtre. C'est l'un des jeunes visages de la comédie française. Voici le tuto lecture à voix haute de Gaël Camille Lundy.
Les qualités requises pour la lecture à voix haute, je trouve qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y en a pas. Tout le monde peut lire à voix haute. Il faut juste s'écouter, il faut juste lire à son propre rythme. Il faut lire avec nos particularités. Il faut lire à travers qui on est. Si on a besoin de prendre du temps et qu'on a besoin de plus répéter en amont, bah en fait, c'est comme ça qu'on est. C'est de prendre un crayon et de le mettre entre les dents. Et de faire tout son texte avec le crayon dans la bouche, en surarticulant. Et c'est comme si ça avait amplifié tous les mouvements de ma mâchoire qui font qu'après, quand je vais lire, tout va me sembler un peu plus facile. Chez moi, c'est physique. Il y a quelque chose qui se tend. Il y a mes muscles qui se crispent et ça vient donner de la puissance, en fait. Et ça me donne de la puissance en mettant plus d'énergie dans ma voix, en parlant plus fort, en mettant plus d'accent, plus de contraste, ce qui fait que je vais architecturer mon texte de manière plus vive. J'aime bien cette image d'un petit sac à dos invisible dans lequel j'y ai mis tous mes petits exercices ou tout ce que j'ai fait pour préparer ma lecture. Et du coup, quand je me concentre, je vais me rappeler tout ce qu'il y a dans ce petit sac. Et du coup, voilà, ça m'aide à essayer de prendre confiance et de faire confiance à tout ce travail.
Voilà. Voilà, concours destiné à la jeunesse. Alors vous, Jamel Cherighi, c'est d'une toute autre jeunesse que vous nous parlez et que vous mettez en scène dans ce premier roman hyper efficace qui se dégoupille aujourd'hui chez Lattès dans la collection La Grenade et qui s'intitule La Sainte Touche. C'est l'histoire d'un jeune homme qui voudrait bien devenir le François Villon du 21e siècle. J'ai dit Villon, on est d'accord, François Villon, le poète. Et qui, comme le poète du 15e siècle, joue les mauvais garçons, se livre à divers trafics, louche, fréquente les bars, boit beaucoup trop, et tombe sous l'influence du patron d'une épicerie, prêt à tous les coups foireux, pour gagner quelques euros de plus. Vous aussi, Jamel Cherighi, vous cassez les codes en écrivant comme on parle. En réalité, vous mêlez le vernaculaire au subjonctif, comme on dit, mais le tout dans un très joyeux télescopage. Racontez-moi comment vous êtes venu à l'écriture, parce que vous m'avez dit comment vous êtes venu à la lecture, mais l'écriture, c'est tout à fait autre chose.
Mais c'est une suite logique, pour moi qui a été logique. Donc après lire pour tromper l'ennui, comme je vous expliquais, je suis tombé dans une sorte d'addiction.
Vous... C'est bien ça, l'addiction à la lecture pouvait y aller. Voilà. Alors, aucune nuisance.
Sans modération.
C'est une addiction qui a remplacé une autre. Vous pouvez être addict sans modération.
C'est une addiction qui a remplacé une autre, en quelque sorte.
C'était quoi l'autre ?
On en parle dans le roman.
C'est la cannabiculture ?
Ça, et l'alcool aussi, un petit peu. Et quand j'ai arrêté tout ça, fallait que je remplace. Il fallait que je comble ce vide. Et je l'ai comblé aussi un peu avec la littérature. Et en un sens, j'ai pas honte ni peur de dire que ça m'a sauvé la vie. La littérature m'a sauvé la vie. Après, comment on en vient à l'écriture ? C'est plus douloureux. C'est un travail plus douloureux, plus laborieux. Parce que écrire, c'est pas naturel pour moi déjà. D'ailleurs, j'ai pris aucune note pour ce roman. J'avais aucune note, j'avais aucun plan. Je l'ai vraiment écrit phrase par phrase. Et ça a été, il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. J'ai tourné beaucoup autour de l'histoire. Je toisais mon ordinateur d'un œil un peu méfiant. On se regardait l'un l'autre. Et j'osais pas trop m'en approcher. Et encore une fois, c'est parce que ce qui se passait, c'est que je me sentais pas légitime pour écrire. Je me sentais pas légitime. Pour moi, il y avait un problème quelque part. Et notamment parce que j'ai tendance à un peu sacraliser les grands auteurs, les auteurs de manière générale. Et pour moi, écrire, c'était aussi me mettre à leur portée. me mettre à côté d'eux. Et pour moi, c'était impensable.
Shahn Haddad, quand vous avez commencé à écrire, est-ce que cette question de la légitimité s'est posée ou pas du tout ?
Elle se pose en permanence. C'est comme respirer. Et il n'y a pas besoin de faire des études ou de quoi que ce soit pour se sentir idiot face à la feuille.
En tout cas, moi, c'est l'image que mes doutes ont pris, c'est passé aussi par le manque d'études. Il y avait cette voix sans cesse qui me disait « mais t'as pas fait d'études, t'es pas écrivain, à quoi ça rime toute cette mascarade ?» Et c'est la lecture, justement, qui m'a aussi sauvé de ces doutes. Notamment, par exemple, je repense à l'histoire du garçon de café de Sartre. Je lisais Sartre et je me disais... Il y a d'ailleurs un merveilleux passage dans le livre de Monsieur sur l'existentialisme qui m'a beaucoup touché. Et je me disais peut-être que finalement, t'es pas qu'un garçon de café, t'es pas qu'un épicier. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Et je suis d'un naturel aussi persévérant, donc j'ai persévéré, mais ça a été très laborieux, très difficile.
Votre personnage fait ses débuts en littérature. Alors, en écrivant de temps en temps des aphorismes quand il n'est pas totalement défoncé, parce qu'il faut quand même dire que c'est un récit d'initiation et qu'on boit, on avale des trucs pas vraiment licites, enfin, que voulez-vous, c'est de la littérature. La Beat Generation est quand même passée par là avant, et tant mieux. En gros, on a le sentiment que vous nous faites aussi le portrait de Jamel Cherigui d'une jeunesse à la dérive. Ce n'est pas la jeunesse étudiante, là. C'est celle qui a été laissée sur le bord de la route. À un moment, vous dites les perdants de la mondialisation, les âmes damnées.
Ou qui sont mis aussi peut-être sur le bord de la route. Parce que bon, certes, on est influencé par son milieu, mais il y a aussi un manque de volonté de la part de l'auteur. Et il le dit à un moment, il dit « je suis fainéant ». Il avoue sa propre fainéantise. Et le problème, c'est que quand d'un côté on est fainéant, on n'a pas les capacités d'aller travailler, mais qu'en même temps on n'a pas le cœur assez dur pour être un voyou, parce que faire le mal, ce n'est pas donné à tout le monde. On pourrait penser que l'argent facile, faire le mal, mais ce n'est pas donné à tout le monde.
C'est ce qu'il va découvrir avec Alain Basile, un épicier.
Véreux.
Véreux. Alors, vous êtes qui, vous ? Vous êtes l'épicier véreux ou alors vous êtes le jeune à la rue qui, un jour, dit à son père, enfin, pardon, à son daron, parce que je parle comme dans le livre, j'arrête l'école et je vais devenir écrivain. Comment a-t-il réagi, d'ailleurs ?
C'est pas vraiment mon histoire. Hein.
Non, mais dans le livre.
C'est un personnage. Dans le livre, son père n'était pas vraiment content parce que on comprend aussi qu'il vient d'une famille, que ce sont des immigrés. Que son père est immigré. Et il y a aussi le père veut pour son fils ce que lui, le père travaille à l'usine. Et on veut mieux pour ses enfants. Donc il veut le pousser à aller à l'école, il veut qu'il gravisse les échelons sociaux. Mais le gosse est totalement en dehors de ça. Il a d'autres rêves, il a d'autres projets. On parlait tout à l'heure des désillusions de la jeunesse. Mais c'est aussi, sans espoir, il n'y a pas de désillusion. Mais l'espoir, c'est quelque chose de fort aussi. C'est ça qui nous pousse à aller vers l'avant.
Il a de l'espoir, encore, il le dit à un moment, hein. Il dit, malgré cette fainéantise, malgré ce voisinage, hein, il a trouvé à vivre, à crécher dans une chambre autour de lui, il y a un toxico, un travelo qui s'envoie en l'air en permanence dans des conditions pas possibles, mais autour de toute cette noirceur, il y a de l'espoir.
Il y a toujours de l'espoir.
Ouais. Ah ouais.
Shahn Haddad.
Je pense qu'en tout cas, dans la littérature, il y a de l'espoir toujours.
Et dans la vie ?
Dans la vie, je ne pourrais même pas répondre. Je crois que je ne suis même pas placée pour le dire. Je vois à trop court terme. Je suis trop jeune.
Elle est trop jeune ? Est-ce qu'il disait ça, votre personnage ? Parce que vous ne nous donnez pas l'âge de votre personnage, mais il a plutôt une vingtaine d'années.
C'est ça. Ouais.
Hein ? Qu'est-ce qui fait que lui... malgré sa fainéantise, ne se laisse pas avaler. Il a plusieurs occasions de se laisser avaler par le doute, la douleur, la mélancolie.
Et je pense qu'il n'est pas fait pour la vie de rue, finalement. Et ça aussi, c'est dit plusieurs fois dans le roman. Il est happé, il veut découvrir le monde, il veut savoir qu'est-ce qui se passe dehors, mais au fond de lui, il sait qu'il n'est pas fait pour ça, parce qu'il n'a pas le cœur assez dur. Et sa gentillesse, son optimisme, c'est une forme d'espoir aussi. C'est un espoir de s'en sortir.
Je voudrais que vous m'expliquiez pour quelles raisons, Jamel Cherigui, vous avez fait ce choix. Même chose, hein, une question qu'à Shahn Haddad. Vous, votre choix est tout à fait différent, alors que vous écrivez comme on parle. Enfin, comme on parle à certains endroits, dans la rue. Alors, on a droit au fameux « à la base ». Hein, ça, celui-là, il est arrivé il y a une dizaine d'années. Bon, j'avais le seum. Il faisait miskine à voir. Wesh. Bon, très bien. Macache. C'est pour les vieux, Macache. C'est la concession que vous faites, c'est le vieil argot, ça. Kutchi. Pour quelle raison avez-vous choisi de bousculer un peu votre lecteur? Il faudrait presque le lire à voix haute, hein, aussi, ce livre, pour bien en saisir la saveur. Pourquoi ce recours à l'argot?
Je trouve que c'était intéressant de retranscrire cette oralité justement à l'écrit. Et je ne suis pas le premier à l'avoir fait. Et d'autres l'ont fait aussi avec beaucoup de virtuosité. Mais c'est aussi par élimination, parce que j'ai aussi essayé d'autres styles. Et je me suis vite rendu compte que quand j'essayais d'écrire avec un style grandiloquent, avec des longues phrases à la Chateaubriand ou à la Proust, ça sonnait faux. Le tempo, la musique n'était pas là.
Je vous pose la question parce que votre personnage raconte sa vie comme ça, mais il est capable d'écrire des lettres magnifiques d'amour ou des poèmes à la métrique parfaite et au subjonctif. Par exemple, celui-ci que j'aime beaucoup. Page 101, tiens. « Ô grand Mallarmé, j'implore ton assistance. Aime-moi, aide-moi, jette-moi dans les transes. Guide-moi vers les mots, dévoile-moi leur essence. » Je leur dirai alors comment mailler la France. Pas mal ça, non? Ah, je trouve ça très beau.
Merci.
Vous jouez hein, des deux styles comme s'il y avait une confrontation entre la rue et puis ce qui serait plus élitiste. C'est ça?
Ben, ouais, c'est pour montrer aussi qu'il y a une grande palette dans la littérature et qu'il faut savoir s'en servir aussi. On ne peut pas maîtriser l'argot, je pense, si on ne maîtrise pas aussi, à minima, le grand style. Non pas que je pense le maîtriser, mais parfois, je m'en sors plutôt bien.
Bah oui, je trouve aussi, là. Il veut être poète de l'urbain, dit-il, comme François Villon au XXIe siècle. Alors, j'ai bien dit François Villon, pas comme le personnage principal du livre qui, lui, comprend pas très bien. Il dit François Fillon, le grand poète du XXIe siècle. Ben non, évidemment. Villon, la balade des pendus.
J'aime beaucoup.
Vous en souvenez?
J'aime beaucoup.
Hein. Heureux humain, qui après nous vivait, n'ayez contre nous le cœur endurci.
Mais...
Pourquoi François Villon? On a le sentiment aussi qu'effectivement, Villon était celui qui racontait les ghettos, les marges, condamnés, comme l'autre.
Après tous les grands poètes bucoliques?
Oui.
Après Ronsard, après Dubélé, c'est le premier qui va casser les codes et qui va retourner ça. Et je trouvais ça très intéressant.
C'est l'homme de la rue aussi.
C'est l'homme de la rue.
Il a condamné à plusieurs reprises, qu'il manque, il manque d'être pendu, porté disparu hein, d'ailleurs depuis le 5 janvier 1463, on n'a pas de nouvelles.
Il est né le jour de la mort de Jeanne d'Arc, je pense, 1431, et il y a une belle biographie de François Villon par Jean Tellet qui, moi, m'a beaucoup marqué. Et aujourd'hui encore, quand je vais chez Lattès et que je me promène dans Saint-Germain, je cherche les rues telles que les a écrites... Jean Tellet, et ça me fait plaisir de voir les bagarres qu'il y a pu avoir donc entre les gens de l'université, les Anglais. Je trouvais ça vraiment passionnant.
Il raconte la France de l'époque, mais depuis les marges. Et j'ai le sentiment que vous, c'est ce que vous voulez faire, raconter une France d'aujourd'hui depuis ces marges-là. On est, vous ne citez pas le lieu, mais on est aussi, j'imagine, dans le Nord, et du côté de Roubaix, où vous vivez. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que la littérature peut? Elle a changé les choses dans votre vie. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour dire le monde?
C'est une fenêtre d'ouverture, c'est une autre vision qu'on peut avoir et qu'on peut se créer. Vous savez, là, j'ai sorti le roman et s'il y a bien une fierté que je peux avoir, c'est l'engouement que ça a suscité, notamment au niveau des jeunes, dans le magasin. Ils sont venus, « Ah, Jamel, c'est vrai que tu as sorti un roman,
mais
ça fait
le
plaisir !»
Ils veulent le lire,
alors que pour certains, ils n'ont jamais lu d'autres livres. Et ça, pour moi, c'est peut-être la plus grande fierté. Et ce qui a été aussi un peu... ce qui ne m'a pas peiné, mais ce qui m'a fait un peu étrange, c'est que ces jeunes-là voulaient acheter le livre dans le magasin. Et je leur disais qu'il fallait aller dans les librairies. Et pour certains, ils n'étaient jamais allés dans une librairie. Et ça, je trouve pas ça normal.
Eh bien, ils vont peut-être y aller.
J'espère qu'ils vont aller.
Vous leur donnez envie.
Ouais.
Ah ouais, leur dites, allez en librairie.
S'ils m'écoutent, allez en librairie.
Maxime Yedo, alors c'est pas du tout la même jeunesse, mais quel regard portez-vous comme lecteur sur ce livre, La Sainte Touche de Jamel Cherigui ?
C'est l'écriture déjà qui m'a porté, le style très jeune, très cash. Je me suis directement laissé embarquer et j'ai peut-être pas posé un bon regard dessus, mais la question qui est, je trouve, au cœur du roman, c'est la légitimité. Exactement comme vous venez de le dire, Jamel. C'est-à-dire que tout au long du roman, on sent que le personnage hésite, il est tiraillé entre certains doutes quand il se met à écrire. Et je me dis que c'est ça aussi quand même que sentent beaucoup de jeunes, c'est-à-dire qu'on leur dit qu'il faut tellement de choses pour avoir un travail, qu'il leur faut tellement de choses pour avoir un avis construit, que ceux qui travaillent d'arrache-pied, ceux qui bossent, peu importe le domaine, parfois hésitent à se lancer, bien sûr. Et je suis aussi très touché, dans un autre registre, parce que ce n'est pas un roman, quand j'ai eu des étudiants ce matin qui m'envoyaient mon livre en photo en disant « Bon, j'avoue, hein, d'habitude, je ne vais pas dans la librairie, mais pour le tien, j'ai fait un effort. » Et cette sensation de provoquer l'envie, comme vous le disiez, je trouve qu'elle est immense.
Et l'envie d'aller dans un lieu, on parlait tout à l'heure des lieux, hein, on aurait pu avoir la librairie dans la ville.
C'est vrai.
Rentrer dans les librairies, on va en parler dans un instant. Mais encore un mot, parce que j'ai l'impression que c'est le point commun. Il y a un lien finalement entre votre livre, Maxime Yedo, qui est celui d'un étudiant en histoire et en sciences politiques, et puis ce roman qui est à la fois foutraque et déjanté, et qu'est-ce que ça fait du bien, de Jamel Cherigui. Page 173, Jamel, vous écrivez « Fini la race des flambeurs ». Bienvenue dans le monde de l'épargne. C'est la fin d'une époque, et celle que constate aussi Maxime Yedo. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de... Le monde dans lequel la jeunesse va s'engouffrer, c'est la fin de l'insouciance, le début d'une nouvelle bourgeoisie où il faut penser, compter, mettre la routine à la place de la grandeur.
C'est un monde plus aseptisé, je pense, oui. Et tout est plus réglementé. Et je parle notamment des caisses enregistreuses qui maintenant sont reliées directement au centre des impôts. Je peux en parler, je suis commerçant, donc ça me concerne directement. Alors qu'avant, tout le monde sait que les commerçants, il y avait toujours une partie, bon voilà. Mais maintenant, ouais, tout est contrôlé. Donc la technologie nous libère d'un côté, nous apporte du confort. Mais en même temps, c'est un moyen aussi d'être plus contrôlé.
Jean-Pierre Le Goff.
Moi, j'ai ouvert le livre et je ne l'ai pas quitté. Je pense que c'est un festival, enfin, j'ai le premier mot, ou un feu d'artifice, on va dire. Et alors, ce qui m'a beaucoup frappé, parce que vous avez parlé de Céline, j'y ai pensé en lisant. Je ne savais pas que vous aviez cette référence à Céline. J'y vois une différence, parce que il y a quand même une pulsion de vie formidable. C'est ça, moi, qui me frappe. C'est-à-dire, au fond de là, parce que c'est quand même c'est quand même les marginaux, hein. Et je sais pas comment vous faites pour décrire des situations qui sont complètement sordides, avec des personnages qui sont pas forcément sympathiques, et on se marre. Alors là, je dois dire que, moi, j'ai rigolé dans le bouquin. C'est-à-dire, bon, il y a une espèce un fleuve de mots qui arrive, et puis bon, il y a des scènes extraordinaires, le désenvoûtement, c'est un truc.
Ah oui, oui. Non, c'est Villon qui rencontre San Antonio, si vous voyez ce que je veux dire.
Non, mais il y a quelque chose de ça, j'ai pas pensé aussi à Audiard, vous voyez, les dialogues, etc. Donc moi, c'est un livre, ce qui me frappe, c'est cette pulsion de vie. C'est-à-dire que, parce qu'on a quand même l'impression que c'est une expérience vécue. Alors, il y aurait vraiment de quoi à déprimer, si vous voulez, il y aurait vraiment de quoi à s'enfoncer, parce que c'est quand même du... Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous rebondissez. C'est quand même extraordinaire, cette affaire. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des espèces de ressources intérieures qui font que... D'ailleurs, on ne sait pas trop. Il y a l'éducation, qu'est-ce qui est dedans. Moi, j'ai trouvé... C'est pour ça que... Ça m'a, je vais vous dire, votre livre m'a fait du bien. Voilà.
Voilà. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Merci beaucoup.
Non, mais c'est formidable. On est en train de réconcilier, sans le vouloir, des générations que vous avez brouillées, Maxime Yedo. Mais vous voyez, c'est finalement, ça. C'est par la lecture que le fil intergénérationnel sortait. Qu'est-ce que c'est, la Sainte Touche ?
C'est le jour des allocations.
Voilà. Vous voyez, c'est ça. Le jour des allocs, c'est la Sainte Touche. La Sainte Touche. C'est aux éditions La Thèse, dans la collection La Grenade. Alors, de Roubaix, je vous propose de partir pour Villeurbanne, en banlieue lyonnaise, et puis, évidemment, de faire très exactement ce que Maxime Yedo et Jamel Cherigui ont proposé, c'est-à-dire aller en librairie, dans cet endroit magique, magnifique, si possible une librairie indépendante, vous allez voir, c'est encore mieux, parce qu'on y trouve des gens absolument fous, et qui font du bien, fous de livres, et puis qui sauront vous conseiller. Tiens, par exemple, à Villeurbanne, donc en banlieue lyonnaise, vous avez Mathilde Kell, qui tient la librairie Lettres à croquer. Et qu'est-ce qu'on croque dans sa librairie ? Ben, vous allez le découvrir, grâce à Inès de la Motte Saint-Pierre, qui est partie à sa rencontre. Regardez.
Moi, je suis libraire parce que la libraire indépendante, ça signifie la liberté. Le livre, c'est un moyen de se battre, c'est un moyen de faire entendre sa voix, d'écouter celle des autres. Ça peut être un cri de rage, ça peut être un cri de douleur, ça peut être un cri de joie. Et dans les plus grandes crises, à chaque fois, c'est ce qui ressort, en fait. Les gens, ça les rend heureux. Le grand livre américain, « Mille petits riens » de Jodi Picou, c'est le livre qui nous fera comprendre la fracture qu'il peut y avoir aux États-Unis en ce moment entre les Afro-Américains et les suprémacistes blancs. On se met à pleurer pour des personnages, on n'a pas envie de pleurer pour eux et pourtant on va le faire. On a envie que justice soit faite. C'est une véritable claque, c'est sans concession, c'est brillant. Mon cri de rage, c'est « Dirty Weekend » d'Hélène Zahavi. C'est la folle équipée de 48 heures, le temps d'un week-end, d'une jeune femme qui, lasse en fait d'être agressée sexuellement, décide de se venger. C'est un livre où il y a une tension qui monte et on se dit à chaque fois « mais elle va loin, elle va super loin, est-ce qu'elle peut aller aussi loin ?» C'est un livre totalement libérateur. Mon livre à lire à voix haute, c'est « Jeu d'un accident ou d'amour » de Loïc Demey. C'est un homme qui se rend compte qu'il tombe amoureux d'une autre femme, il en perd le verbe, et tout son texte sera sans verbe. Oh, on a les poils qui se hérissent. Alors, mon livre drôle, c'est « L'oiseau canadèche » de Jim Dodge. Ce qui est drôle, c'est le style, c'est les situations, c'est rocambolesque, il y a toujours un petit mot, le sens de la formulation, et on éclate de rire. Mon écrivain préféré, c'est Jane Austen. C'est hyper fin, c'est féministe, elle a un destin complètement de ouf. La pauvre, elle est morte à 42 ans, elle n'a pas pu se marier avec l'homme qu'elle aimait. Pour moi, c'est la queen.
Et puis quand vous irez en librairie, tiens, demain ou dans les jours qui viennent, en plus de ces livres et puis de ceux de mes invités ce soir, prenez celui de Joseph Pontus, À la ligne, paru il y a 2 ans. Souvenez-vous de sa prestation sur ce plateau. Joseph Pontus, qui est mort à l'âge de 42 ans la semaine dernière. Autre disparition, celle de 2 grands poètes, Philippe Jacotet, à 95 ans. Philippe Jacotet, qui était un merveilleux poète et puis un immense traducteur. Je vous recommande notamment sa traduction de l'Odyssée. Et puis l'Américain Lawrence Ferlinghetti, 101 ans, c'était le dernier des Beats, le dernier survivant de la Beat Generation, l'éditeur de Kerouac, Ginsberg, Bukowski et tant d'autres, que j'avais été rencontré dans cette mythique librairie de San Francisco, City Lights. Jean-Pierre Le Goff, je vous ai vu très attentif quand nos jeunes romanciers, essayistes, parlait, racontait. Vous parlez, vous aussi, souvent et beaucoup des jeunes. Je rappelle que vous êtes sociologue, philosophe, historien. On vous doit des livres qui ont fait date, comme Mai 68, L'héritage impossible. Il y a eu également Malaise dans la démocratie. Et votre nouvel ouvrage raconte comment la pandémie nous affecte. Il s'intitule La société malade. Il sort chez Stock. La première chose que vous constatez, c'est le piège de la parole. Le décalage entre la maladie et une bulle langagière et médiatique, écrivez-vous. Le bavardage ou le baratin que cette pandémie a suscité, donnant lieu à une masse d'écrits. Alors, votre livre échappe, mais c'était sur le fil, hein, parce que quand on commence soi-même à pointer le risque, eh ben, évidemment, on manque tomber dedans. Vous échappez à cela, à ce bavardage et à ce baradin, peut-être d'ailleurs parce qu'il y a la littérature. Orwell, Tocqueville, dont on va parler dans un instant. Et vous ouvrez ce livre, Jean-Pierre Le Goff, par des phrases de Raymond Devos. Alors évidemment, je pourrais les lire, les phrases de Devos, mais c'est quand même mieux de vous les montrer. Écoutez bien ce que disait Raymond Devos et qu'utilise Jean-Pierre Le Goff.
Si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions. Nous en étions conscients, car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que le sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devrait être pour aujourd'hui, d'ailleurs. Si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle est toujours pour demain. Alors je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons ?
On peut donc être sociologue, parler des drames actuels et avoir le sens de l'humour, Jean-Pierre Le Goff.
Moi, je pense que c'est un élément fondamental, l'humour. On dit que c'est quelque chose qui est bon, insignifiant, c'est pas vrai. Je pense que ça montre un certain nombre de choses et ça dévoile un certain nombre de choses. Vous parliez du discours. Il se trouve que quand je suis tombé malade, si vous voulez, avec ce Covid, bon, c'est pas une forme grave, mais enfin, quand même, vous avez des fièvres et des tremblements, vous n'êtes pas bien.
C'était quand, au début de la pandémie ?
Oui, au tout début, c'est-à-dire au moment du confinement. Plus vous êtes confiné. Donc, vous êtes dans une situation très étrange, entre deux eaux, j'allais dire. Et puis, vous lisez un certain nombre de textes. Je me suis amusé à les reproduire, à les réécrire. Je ne vais pas citer de nom, parce que, mais enfin, c'est tout extrait de... Je ne vais pas faire du De Vos, mais j'ai trouvé ça assez insignifiant. C'est-à-dire, on enfonce des portes ouvertes, nous sommes à un tournant, d'ailleurs on est toujours à un tournant, entre le passé et le présent, l'avenir n'a de sens, il est devant, on ne sait pas où ça va.
Le monde d'après, ça aussi, ça vous alors, fait le monde beaucoup rigoler,
le monde d'avant. J'ai trouvé que même, je ne vais pas dire mes collègues, mais sociologues ou autres... Je trouve j'ai toujours pensé que les sociologues, il fallait qu'ils marquent, si vous voulez, à l'entrée de leur laboratoire, c'est l'humilité et la vertu de l'intelligence. Je trouve que ça leur manque beaucoup. Et l'humour avec, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est des gens qui se prennent terriblement au sérieux et qui ont une forme d'arrogance par moment qui, moi, m'agace un peu. Mais bon, c'est comme ça, hein. Chacun a sa façon de vivre les choses. Donc c'est ça, pour moi, c'était ça. Et introduire de l'humour, là, il n'y en avait pas. Et puis je dirais que le livre, quand j'étais malade, c'est ce qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau. Je prenais des notes, c'était pas les mêmes. C'était des notes que je prenais dans les journaux. Alors je trouvais que c'était assez comique, des grands penseurs. Parce qu'on s'écrase devant le grand penseur, philosophe.
Et vous, etc. Vous releviez tous les truismes, était cliché.
Et... J'en ai fait une espèce de cahier de truismes, si vous voulez. On enfonce des portes ouvertes. Et j'ai trouvé un peu, d'ailleurs, ce langage dans le management, qui est autre chose. Mais c'est quand même aussi une grande bulle langagière, où ça parle beaucoup. Et si vous voulez, c'est toujours un peu la même chose. L'important, c'est d'aller de l'avant. Vous voyez, on ne sait pas où, mais allons-y. N'importe comment, il faut qu'on en discute. C'est quand même assez paradoxal. Il y a plein de choses comme ça, et on est dans une société éminemment bavarde.
Est-ce que ça, c'est aussi, j'allais dire, le double choc ? La pandémie mondiale, mais aussi, d'un autre côté, peut-être accélérée, vous le dites, hein, par les réseaux sociaux, cette bulle de langage, ce moment où, bah, tout à coup, on a le sentiment que les mots ne comptent plus, qu'on utilise une expression pour une autre, qu'on rabâche des choses. Comme si finalement, 2000 ans de littérature et des rayonnages pleins de bibliothèques et de librairies servaient à rien.
Bah, c'est l'essoreuse à idées. Et l'important, c'est d'être au centre de l'essoreuse à idées, en étant le plus visible possible, si vous voulez. Il y a une espèce de concurrence là, dedans qui joue beaucoup. Mais je pense qu'il y a un phénomène civilisationnel, c'est-à-dire l'événement, le tragique, pour dire les choses, nous arrive maintenant, c'est une donnée nouvelle, à travers immédiatement d'emblée les moyens d'information, les images et les réseaux sociaux. Si vous prenez avant la guerre de 14, ça a commencé là, j'en parle un peu dans mon livre, où c'était les premières photographies de guerre. On voyait des destructions. Avant, c'était du dessin ou des reporters. Après, il y a eu le reportage parlé. Après est arrivé dans les cinémas la guerre d'Espagne. Je cite Zweig, qui dit précisément tout d'un coup, le tragique est arrivé dans les foyers. Ce qui s'est passé avec la pandémie est très étrange, parce que la mort était bien là. Vous regardiez à la télévision, moi au début, et j'étais en plus, quand vous avez de la fièvre, c'est pas évident, les cercueils, vous voyez, les reportages dans les... Et puis, c'est la mort était là. Et pourtant, elle n'était pas là partout. Puisque si vous n'étiez pas touché, c'était quand même à distance. Et puis, il y avait les services d'urgence qui étaient débordés, d'autres qui ne l'étaient pas. D'où un grand sentiment de réel diffus, d'angoisse diffuse, et en même temps d'irréalité. C'était réel et irréel. Et je pense que la bulle dans laquelle on est, qui est une bulle, je dis langagière, et d'image aussi. Ça joue beaucoup parce que l'image, vous collez, c'est l'émotion directe. Mais en même temps, vous êtes un spectateur, vous êtes dans votre salon, vous regardez les morts, le tragique, et vous le voyez, vous êtes à distance, et vous êtes prêt. Et alors, ça peut rendre fou, j'allais dire, quand vous êtes en plus enfermé.
Vous imaginez que ce que vous avez ressenti, vous qui en avez l'expérience, vous imaginez la façon dont les jeunes, dont on parlait tout à l'heure, l'ont ressenti ? La violence que ça peut être ?
J'ai du mal parce que les jeunes, enfin une partie des jeunes, si ça vous tombe pas dessus, si vous voulez, c'est pas pareil. Vous dites, tiens... c'est pas juste. Pourquoi c'est tombé sur moi? C'est un peu comme la maladie, etc. Ça fait partie du tragique de l'existence. On est dans une société qui a beaucoup de mal à l'accepter, si vous voulez. Il y a de l'aléa dans l'histoire, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Et je pense que la société, dans cette histoire, plus globalement que les jeunes, il y avait à la fois un manque de moyens matériels, on a beaucoup insisté là-dessus, mais je dirais on n'était pas armés culturellement. C'est-à-dire la mort, ou les situations limites, il y avait une espèce d'hygiénisme post-moderne.
Ça, c'est la thèse principale de votre livre. Hein. On a, depuis des années, assisté au recul de la mort dans notre société, voire à la disparition, écrivez-vous, du sens du tragique de l'histoire.
Oui, ça... Oui, je pense que d'ailleurs, les attentats terroristes, on a eu du mal, déjà, si je prends ce phénomène-là, à dire qu'on avait des ennemis qui veulent nous tuer. C'est pas normal, on n'a rien fait. Et alors, on allume des bougies, on chante John Lennon, vous voyez, je n'ai rien contre, c'est des nouveaux rituels de deuil. Mais c'est dur à accepter. Et le tragique, le fait qu'il y a de la maladie, de la mort, dans une société qui est beaucoup plus pacifiée qu'avant, globalement, et puis surtout qu'il y a une définition de la santé, je cite une définition de la santé, c'est quand même impossible à réaliser. En gros, ça revient à la chose suivante, être bien dans sa tête et dans son corps. Moi, je le dis souvent, cette formule, avec un rapport réconcilié avec soi-même, les autres et la nature. Et si possible, mourir en bonne santé. Ça, c'est quelque chose...
Attendez, derrière l'ironie que je sens pointer dans votre définition, Jean-Pierre Le Goff, qu'est-ce que nous dit une société qui érige la santé à un niveau plus important encore que la liberté? Question que pose d'ailleurs Maxime Yedo dans son livre.
Question. C'est exactement la question. Oui, c'est-à-dire que... Alors, il faut bien mesurer. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Est-ce que telle mesure ou telle mesure était juste? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il faut savoir que la vie, il y a des risques. Ce n'est pas simplement un état où on est complètement avec un état, d'ailleurs, qui nous prend pour des enfants, souvent, qui s'occupent de nous vraiment dans le détail.
On a oublié ça, Jean-Pierre Le Goff. On a oublié que la vie, c'était des risques. On a voulu, ou on nous vend, un modèle de société où on vivra vieux, bien, longtemps, avec ce transhumanisme qui pointe, le progrès, tout ça. Le tragique de l'histoire,
on l'oublie. C'est la société qu'il demande. Il y a un rapport entre la société et l'État qui est assez étrange. C'est-à-dire, la société veut de plus en plus de sécurité. Et si l'État peut nous empêcher même de penser avec le trouble que ça représente, parce que penser par soi-même, c'est pas évident... On vous donne des formules toutes faites, etc. Et bon, voilà. Et donc, j'ai droit à la santé. Et il y a presque... Je pousse à la limite. Mais il y aurait presque le sentiment d'une injustice si on tombe malade, si vous voulez. C'est presque, je dirais pas une discrimination, mais ça fait partie de la condition humaine. Or, on est dans une société moderne où cette dimension de la transgression, du tragique, des situations limites, se sont un peu érodées. Vous voyez? Et surtout... Alors, on ne le vit pas de la même façon... selon sa situation sociale, mais je dirais aussi ses parcours de vie.
Est-ce que ça, c'est une des raisons qui explique les différentes fractures que l'on constate dans la société? Ce que vous écrivez, c'est que ces fractures, en réalité, étaient déjà là. Tout ce que Maxime Yedo nous a dit tout à l'heure, c'était là. Le Covid, la pandémie, n'en est que le révélateur.
À mon avis, oui. J'appelle ça le ver grossissant du normal. C'est déjà pas très... C'est un peu ça. Mais oui, effectivement, je pense que ça a accentué un certain nombre de traits qui étaient déjà présents. Moi, je l'ai pris, si vous voulez, dans mon livre, je prends que la première période, c'est-à-dire jusqu'à la fin du premier confinement. Pour moi, c'est un peu, si vous voulez, c'est un microcosme qui nous dit beaucoup de choses sur un certain état des mœurs, on va dire, sur un état...
Qu'est-ce qu'il dit alors? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'état des mœurs aujourd'hui?
Je pense qu'il y a des fractures, si vous voulez, qui sont... On insiste beaucoup sur la dimension économique et sociale, ça je pense que c'est un élément important, mais pour moi, les fractures, elles sont autant culturelles. Et ces fractures culturelles, prenons par rapport le rapport à la condition humaine, à la vie, à la naissance, à la mort. C'est pas du tout pareil selon votre situation, votre parcours, votre terreau premier éducatif. Et je pense que la question du travail est fondamentale. C'est pas pareil quand vous travaillez dans une usine où vous avez l'épreuve du réel, vous pouvez vous tromper, mais enfin vous pouvez vous faire mal. Si vous êtes dans l'armée, si vous êtes confronté au tragique de la vie et la mort dans les hôpitaux, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'autres métiers qui sont plus éloignés de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus... Je n'établis pas une hiérarchie, mais vous ne pouvez pas avoir le même rapport à la vie. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire où vous vivez dans une bulle assez protectrice, et je pense qu'il y a une illusion des sociétés démocratiques de vivre dans cette bulle faussement protectrice, parce que le réel et le tragique nous rattrapent toujours.
Mais il y a des choses très justes que, dans le livre de Jean-Pierre Le Goff, notamment une qui m'a frappé, quand on dit qu'il y a une sorte de duel finalement entre la liberté et la santé. On avait déjà eu ce duel, rappelez-vous, lors des attentats avec l'état d'urgence, rappelez-vous, on s'était dit, puisqu'il y a des attentats, et c'est très grave en effet, on va suspendre quelques libertés. Aujourd'hui, pour la liberté, c'est pareil. Et c'est là où relire Knock à ce moment-là, c'est absolument dingue, je le dis en effet, parce que je l'aperçois sur la table. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, et c'est une des phrases de Jules Romain, quand aujourd'hui quelqu'un n'a pas d'existence médicale, on commence aujourd'hui à être inquiet. Et sur votre métaphore du ver grossissant, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a dit, mais regardez les lycéens, ben, leur bac on leur a donné, en oubliant que la plupart du temps, déjà 95,7% des lycéens l'avaient. Pareil à la fac, on est allé dans des facs, on a filmé des étudiantes, des collés les uns aux autres sur l'amphi, on a dit, c'est regardez ce que provoque le Covid. Non, c'est tout le temps comme ça. Donc en effet, le ver grossissant était dingue.
Vous évoquez cette jeunesse qui tombe dans le festif. Quel regard portez-vous, Jean-Pierre Le Goff, à la fois sur... Vous parlez beaucoup des jeunes adolescents, mais sur ces jeunes adolescents, mais aussi sur ce que vous avez entendu ce soir.
Bah, moi, je parle du peuple adolescent. Vous voyez, c'est-à-dire l'adolescence, c'est une période qui est transitoire. C'est pas un état... Quoique vous apercevez, on vous dira aujourd'hui, ça dure longtemps. Moi, je pense que si vous... Prenez l'ancien monde et le nouveau. Il y avait un certain nombre de rituels qui vous faisaient sortir de l'adolescence. C'était quoi? Pour les garçons, c'est le service militaire. C'est-à-dire la dimension de l'agressivité était canalisée d'une certaine façon. Et puis, vous aviez le travail, l'entrée dans le travail. Parce que c'est quand même ça, l'épreuve du réel. C'est-à-dire l'épreuve de la limite. Pas simplement le fantasme de la toute-puissance ou de l'illimité, si vous voulez. Vous vous heurtez, puis vous rentrez dans des rapports avec d'autres. Vous sortez de la solitude pour rentrer dans des rapports qui ne sont pas simplement avec des amis très proches que vous avez connus quand vous étiez petit jusqu'à aujourd'hui. C'est des gens nouveaux qui ont leur caractère, donc ça va frotter. Ça va... Et c'est ça qui fait, j'allais dire, l'intérêt d'un parcours de vie. Vous parliez du sel de la vie. Pour moi, ces choses-là, c'est inséparable de ce parcours-là. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de parcours tout fait. Qu'il y a des gens, certains vous diront, ils étaient déjà petits quand ils étaient grands. C'est-à-dire, ils avaient déjà tout pensé, etc. C'est pas vrai, je ne crois pas. Il y a des parcours aussi très chaotiques avec des...
Il y en a aussi.
Et je pense que, pour moi, la capacité de rebondir est quelque chose d'absolument essentiel.
La société malade. Alors, je suis désolé, mais nous sommes en direct, le temps passe. Il y a des pages absolument formidables sur ces deux livres. Orwell, vous en avez parlé tout à l'heure, et puis La démocratie en Amérique. Et vous revenez sur ce moment que Tocqueville pointait. Il nous alertait déjà, hein, Tocqueville, quand la santé est plus importante que la liberté, les démocraties ont un peu de soucis à se faire. La société malade de Jean-Pierre Le Goff, aux éditions Stock, ça sort également ces jours-ci en librairie. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Chane Haddad, Maxime Yedo, Jamel Chérigui, Jean-Pierre Le Goff. Tous les livres sont à retrouver et à gagner en répondant à la question qu'on va vous poser dans un instant sur les réseaux sociaux. Ah bah oui, vous répondez à la question, vous repartez avec tous les livres. C'est pas beau ça? Allez en librairie, on vous l'a dit. Restez sur France 5 dans un instant. La culture continue avec Karim Rissouli et toute sa bande. À la semaine prochaine en compagnie de Robert Badinter, invité unique de la Grande Librairie avec beaucoup de surprises, vous le verrez. Bonne soirée, bonne lecture.
Merci, merci pour l'invitation. Ouais. Oui.
Pas parce qu'on fait le petit repas avec vous.
Je reste ici ?
Non, je vais vous mettre en place. C'est juste là.
Pardon ? Oui, j'avais vu le mix.
Ok. Ouais, au scotch.
Oui, tout le monde. Quelqu'un fait une pastille pour Internet ?
C'est moi. C'est bon, j'ai pas trop
non, c'est parfait.
Fait un gros carnage.
Pas tout, ça n'a pas bougé.
J'avais pas capté que ça se faisait debout, en fait, maintenant. Quoi, debout? Debout sans pupitre, plutôt.
Oui, c'est du coup, où est-ce qu'on met nos mains? C'est toujours la grande question.
Je pense que c'est
taillé. Bonsoir.
Pardon, je suis Agnès.
Je vous en prie.
C'était juste pour vous dire, donc là, c'est quelques petites questions sur vos lectures, les livres que vous avez aimés, etc. Et sur votre façon de travailler, parce que vous avez des rituels de lecture.
Ouais.
Réponse courte, rapide, ce qui vous vient.
Si je bégaye ou quoi, je peux reprendre?
C'est totalement monté. Ouais. Alors, vous pouvez reprendre, mais c'est monté, évidemment. On ne regardera pas toutes les questions, etc. Mais s'il y en a une, surtout, qui ne vous inspire pas et tout, dites je passe.
Ok. Super.
Il y a aucun, mais c'est vraiment des, juste des petits traits.
On est sur deux minutes, ça fait une réponse courte.
C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.